Eh bien, bonjour à tous. Alors, on est tous les trois très contents de vous retrouver pour une émission, surtout Maurice. Ah, t'es content, Maurice?
Et content.
Très content. Maurice qui m'a laissé le plaisir d'introduire cette émission. Je vais rapidement cadrer sur le titre on l'espère, vous avez tous lu et qui n'est pas forcément accessible toujours au premier abord pour tout le monde. Donc je lis le titre de l'émission, La schizophrénie mégapolitaine de l'usine globale universelle, expression historique de la domination réelle totale de la réification accomplie comme inculte passivité chosiste, généralisée et obligatoire. Alors je vais essayer de reprendre les mots rapidement un par un pour cadrer de façon générale et puis je laisserai mes deux camarades compléter éventuellement et puis après on déploiera ça. Alors, la schizophrénie mégapolitaine. On va parler de la schizophrénie mégapolitaine. On ne va pas parler du fait qu'il y a beaucoup de fous dans les grandes villes. On parle du fait que, alors, schizophrène, c'est littéralement, étymologiquement en grec, c'est l'esprit déchiré. Donc effectivement, la psychiatrie a appelé ça schizophrénie, parce qu'effectivement, ce que la psychiatrie a appelé schizophrène, ouais, effectivement, l'esprit déchiré. Mais la question, c'est pourquoi l'esprit est déchiré? L'esprit est déchiré parce que il est coupé de son être, et c'est-à-dire pas de son esprit, c'est-à-dire de son agir. L'esprit, on en a parlé très souvent à partir de Hegel. L'esprit n'a aucune autonomie. Une conscience humaine, une pensée, et même dans l'aliénation et l'idéologie, n'est que le résultat d'une pratique et d'un agir concret qui produit un résultat psychique, disons, entre guillemets. Donc, on parle du fait, quand on parle de schizophrénie, nous, en tant que critiques radicaux, on parle du fait que les hommes sont coupés de leur agir. Mais coupé, on va le voir, on va l'expliquer tout à l'heure, coupé spécifiquement aujourd'hui de façon maximale, c'est-à-dire totalement déchiré, parce que cette schizophrénie qui vient d'un agir qui est pris dans l'obligation de produire, non pas pour les besoins de l'homme, mais pour les besoins solvables d'un système capitaliste, pendant longtemps, cette coupure a été circonscrite dans un lieu qu'on a d'abord appelé la manufacture, puis l'usine. L'usine, c'était quoi? C'est le lieu où, pendant un temps déterminé, les humains sont arrachés de leur agir, où ils agissent pour une extériorité à eux-mêmes. Mais c'était limité. Et comme cette pratique pré-schizophrénique, justement, elle ne l'était pas, mais cette pratique de coupure est limitée dans le temps et leur agir ne leur échappait que de façon limitée, ben, leur vie en dehors de l'usine demeurait une vie encore humaine dans tous ses aspects, du quotidien, de l'alimentation à l'affectif, à tout ce qui fait la vie des hommes. Alors pourquoi nous on parle de schizophrénie mégapolitaine? La police, c'est certes la ville, mais ça vient aussi de Pauline, qui est, alors vous connaissez ça mieux que moi, Francis, vous me contredirez si je me suis trompé, mais je ne pense pas, c'est le vendre, le Pauline en grec. Donc la schizophrénie mégapolitaine, c'est la schizophrénie non pas de la grande ville, mais de la vie qui a d'abord émergé dans la ville, la vie aliénée qui a d'abord émergé dans la ville, capté par la valeur d'échange. C'était le lieu central de la vente. Donc historiquement, il y a eu une coupure. On ne va pas remonter comme on fait à chaque fois au paléolithique, etc. Mais disons que si on prend le Moyen Âge, qui a été le mode de production d'où émergeait le capitalisme, la coupure ville-campagne, la vie humaine aliénée dans le régime féodal était une vie à la campagne et à la ville. Il y avait un lieu spécifique. Alors avant, il y a eu les grandes comme on appelait ça dans le Nord, les foires, etc. Mais dans la ville, il y a un lieu spécifique qui est le lieu central du mode de vivre aliéné dans l'avant, disons. Nous, on parle de schizophrénie mégapolitaine, de l'usine globale. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'usine comme le lieu d'exploitation du travail des hommes dans le capitalisme, et spécifiquement dans une certaine durée et dans un certain lieu. On parle d'usine globale parce que précisément, c'est à un certain stade, on va périodiser après avec la domination réelle, mais à un certain stade dans la domination réelle, justement, du développé de ce que je viens de décrire, l'agir capté par le système, l'agir humain capté par le système ne se circonscrit plus à l'endroit de cette captation, l'usine, mais c'est l'agir humain dans tous ses aspects, et c'est en cela qu'il est global, c'est-à-dire c'est l'ensemble des agirs humains, mais c'est aussi l'ensemble des agirs de l'humain. Tout ce que fait l'homme et tout ce que l'homme, en tant qu'il se produit lui-même dans son agir, tout est capté par cette logique échangiste. Et donc, l'usine a en quelque sorte explosé, même s'il existe toujours partout dans le monde des usines où on travaille à la chaîne d'une façon plus perfectionnée qu'au 19e siècle, mais sur le même mode où on exploite le travail sur un temps donné. Mais à la différence du 19e siècle, quand les ouvriers sortent de l'usine et quand les employés sortent du bureau alors qu'ils n'ont jamais mis à l'usine, et tous les autres, et quand les paysans quittent leur tracteur, etc., tous continuent à avoir un argir qui n'est plus humain, on donnera plein d'exemples et on développera ensemble, qui n'est plus humain, mais qui continue à être l'expression d'une captation, d'un échappé, qui fait que tout ce qui faisait l'homme, tout ce qui fait l'homme naturel, c'est-à-dire désirer, agir pour réaliser ce désir et jouir de la réalisation de ce désir après avoir agi pour cela, tout ce qui fait la totalité de cet homme lui échappe, son désir n'est plus que le désir du monde marchand. Son agir est un agir automatisé, chosifié, le reflet exact des machines dans l'usine. Et son jouir est un jouir machinique qui n'est plus un jouir humain. On a fait une émission sur l'alimentation, mais on pourrait faire une émission sur la sexualité, etc. On donnera plein d'exemples. C'est un jouir d'automate coupé de sa naturalité et coupé de son humanité générique. J'ai parlé d'historisation, et c'est la suite justement du titre de l'émission, donc la schizophrénie mégapolitaine de l'usine globale universelle, expression historique de la domination réelle totale. Ça dit donc que on a dit plein de fois que, il y avait deux phases dans le développement du capitalisme, la domination formelle, à partir du XIIIe, XIVe siècle dans les cités italiennes, où la logique de la valeur d'échange et de la marchandise tend à s'universaliser, mais elle est au départ toute petite et elle naît dans un mode de production qui n'est pas centré sur cette réalité, qui est le mode de production féodal. Pendant toute cette domination formelle, elle va se développer jusqu'à, alors on l'a parlé plein de fois et c'est pas l'objet ce soir, mais donc jusqu'à 1914, dans des phases successives. Elle va se répandre de plus en plus jusqu'à dominer la société, c'est-à-dire qu'elle a mis tout ce temps pour pouvoir digérer ce qu'il a produit et l'abolir, en quelque sorte, le monde féodal et tous ses résidus. La spécificité de l'exploitation sur cette phase-là est centralement basée sur la plus-value absolue. On exploite les gens en les faisant travailler, en ne les payant pas à hauteur de la valeur produite. Et on les fait travailler, si on veut les exploiter davantage, on leur paye systématiquement la nécessité, le minimum nécessaire pour vivre, le salaire. Et si on veut les exploiter davantage, ben à cette époque-là, on maximalise le temps horaire ou on diminue le salaire sur le même temps. Au fur et à mesure du développement machinique, qui n'est pas le produit d'un fétichisme techniciste comme on l'entend souvent, mais qui est le résultat de la logique du taux de profit et de la plus-value, de plus en plus, au fur et à mesure que les machines vont se développer, déjà dans cette période, de plus en plus, l'exploitation va se faire sur la plus-value relative, c'est-à-dire que on n'a plus besoin de faire travailler les gens davantage, on peut même les faire travailler moins parce que l'explosion de productivité par les machines fait que y a une telle différence entre la valeur produite et le nécessaire pour vivre du travailleur prolétaire exploité, que l'aspect du temps, donc du temps de travail, c'est pour ça qu'on parle d'absolu, le temps en absolu n'est plus prépondérant, ce qui compte, c'est la productivité machinique du travail. Tout le long de la domination réelle, c'est la plus-value relative qui est extrêmement petite au début et plus-value absolue qui est immense, quasiment généralisée au début. La première qui grandit doucement, et la deuxième qui diminue, qui diminue, qui diminue, jusqu'à arriver à 1914, où la plus-value relative prend le pas sur la plus-value absolue. Et on rentre, faut comprendre ce que je disais, ça en lien à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose qui est lié à l'économie et au travail, c'est-à-dire avant l'agir humain, c'est ça qu'il faut, l'agir humain, ce qui fait la vie des hommes, est exploité, et les gens le savent d'ailleurs, un esclave, c'est très bien qu'il est exploité. Et ça renvoie d'ailleurs aussi au mot de schizophrène. Même la psychiatrie actuelle, elle appelle schizophrène, un schizophrène, c'est pas un névrotique. Un schizophrène, la différence avec le névrosé, c'est précisément qu'il n'a plus conscience de sa folie. L'esclave, il est parfaitement conscient d'être exploité. Le salarié, par le fait que son agir lui échappe totalement, totalement, la journée, mais le soir, le matin et tout le temps, et dans tous ses actes, il en a perdu la notion même du fait qu'il était exploité. Et d'ailleurs, le capital appelle ça le travail libre, ce qu'il est effectivement. Donc le mode de production de la réification, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que via les machines, l'homme, qui n'est que le résultat de son agir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, devient lui-même une machine anti-humaine. On voit, on parle de schizophrénie là, mais on voit tout un tas d'agir dans le monde moderne, les tocs, les manies, les répétitions, les rituels, etc. Tout un tas de choses qui ne sont que l'expression du fait que l'automate de la machine a gagné l'humain au point de faire l'humain un anti-humain radical, donc une machine totale. Expression historique de la domination réelle totale, de la réification accomplie comme inculte passivité choisie, généralisée et obligatoire. Alors, réification accomplie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, elle est totalement accomplie, non pas qu'avant, elle est accomplie, pardon, je n'ai pas précisé la périodisation, je parle de domination réelle. Là, on parle de domination réelle totale. Donc, on ne parle pas de 1914. À partir de 1914, je me suis arrêté au fait que la plus-value relative prenait le dessus sur la plus-value absolue. Mais la plus-value absolue est toujours là. Le cheminement que j'ai décrit continue et la plus-value relative avance, avance, avance. La plus-value absolue recule, 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 jusqu'à arriver au passage en domination réelle supérieure, où la plus-value relative est devenue omnipotente, généralisée, et la plus-value absolue quasiment inexistante, résiduelle. Et donc, la réification qui procède de cet agir aliéné, la réification des humains, est elle-même totale. Et elle est le résultat de cette coupure dans l'agir pratique quotidien de la production. Et à partir de là, tout dans l'humain et dans sa pensée et dans son idéologie, tout et dans son affect, tout va être l'expression de cette chosification, etc. Si bien que, au bout du compte, cette inconscience historique qui fait que lui-même ne sait pas, il n'est que la reproduction machinique de cette pratique qui lui échappe et qui est pourtant la sienne, au bout du compte, on a parlé dans le titre de inculte passivité choisie, généralisée et obligatoire. L'inculture, il faut, alors on va en parler, mais c'est l'inculture généralisée, le savoir historique, le passé, les luttes, etc. Le fait qu'avant on était exploité, mais qu'on se battait contre cela. Mais c'est aussi, on pourrait dire que l'inculture, c'est l'inculture et la culture chosifiée. C'est-à-dire que plein de gens qui nous écoutent nous opposeront, qui connaissent plein de choses et que sur certains domaines, ils connaissent plus de choses que nous, etc. Le problème, c'est pas simplement la connaissance, c'est le savoir de cette totalité qui fait que plein de gens peuvent être critiques d'aspects de la réalité, mais personne ne comprend que la totalité de la réalité, y compris de la réalité pensée, découlant de la pratique objective des hommes, à partir du moment où cette pratique a produit la chosification maximale, tout va nécessairement, et on finit comme ça, choisi, généralisé et obligatoire. Obligatoire au sens du philosophique de nécessaire. Tout va nécessairement être chosifié. Et donc, il y a l'inculture, mais il y a aussi la culture chosifiée, qui devient elle-même non pas un moyen de comprendre le monde pour le transformer en héritage des luttes passées, mais qui va être un moyen d'échange symbolique pour se valoriser par rapport à ceux qui en savent moins, etc. Et pareil pour la passivité. Il y a évidemment la passivité au sens centrale où on le voit maintenant, les gens assis avec leur portable, mais la passivité, elle peut prendre aussi la forme de l'activité réifiée. C'est-à-dire, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de culture vraie, c'est inculture ou culture chosifiée, il n'y a plus d'activité vraie, c'est passivité ou activité chosifiée, et il n'y a plus de sentiment vrai. Et donc, et plein de gens nous opposeront. Oui, moi dans mon couple ça se passe mal, etc. Avec mes enfants ça se passe mal, mais je les aime. Sous-entendu, il y aurait une partie aliénée dans le rapport social des hommes, mais au fond il y aurait une vérité. J'ai entendu des critiques récentes sur le fait qu'on serait à guerre de classe monodéterministe. Tout est monodéterministe. Le pluridéterministe, ça ne signifie rien. Évidemment que nous, on comprend que l'idéologie agit sur le monde, mais seulement en tant qu'elle est produite par la matérialité sociale des hommes et qu'une idéologie qui n'a plus aucun sens au regard du devenir de la matérialité sociale des hommes, elle disparaît et elle n'influence plus rien. Donc, tout est le produire pratique, produire au sens large, tout est l'agir humain. Et dans ce monde-là qui est devenu totalement réifié, tout est réifié, y compris nos sentiments, malgré, et c'est là qu'on est schizophrène, malgré ce qu'on croit, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'amour et ce qu'on croit ressentir comme étant de l'amour, ben, ça ne peut pas l'être par définition. Donc j'ai essayé de cadrer de façon générale, je vous laisse la parole et puis on continuera ensemble.
Alors, c'est une émission qui est très importante, comme toutes les émissions qu'on a faites, mais c'est probablement une des émissions qui est la plus décisive, puisqu'elle est au cœur, elle est au cœur du déterminisme, de ce qui fonde l'auto-présupposition dialectique, de la mise en perspective révolutionnaire, puisqu'elle dégage, le concept de totalité. Schizophrénie mégapolitaine, usine globale, domination réelle totale, réification accomplie, passivité chosiste généralisée et obligatoire, ce sont les catégories de la fin de l'histoire. Ce sont les catégories de la fin de l'histoire. Et tout le travail de Marx, que ce soit dans les Grundrisse, que ce soit dans le Capital ou dans l'articulation dialectique qui fait passer de l'un à l'autre, dans une surdétermination objective, le sixième chapitre, nous rappelle que toute réalité historique, a deux temporalités. Elle a une temporalité formelle et elle a une temporalité réelle. Et la temporalité formelle n'est que la mise en mouvement de ce qui va accomplir la totalité réelle en tant que réellement réalisée. Le cœur aliénatoire de la surchauffe de l'exploitation capitaliste, c'est le fétichisme de la marchandise. Tous les modes de production sont structurés dans le rapport qui conduit la formation sociale à avoir un lien avec son imaginaire, sa perception, sa reproduction matérielle et sa reproduction symbolique dans un rapport d'aliénation qui fait que l'homme est assujetti à une domestication supérieure. Que ce soit le mode de production asiatique, que ce soit le mode de production féodal, il y a effectivement un assujettissement, un arraisonnement, une domestication qui fait aliénation, mais qui ne fait pas fétichisme de la marchandise. Alors, il y a évidemment des fétichistes locaux inaccomplis chez les tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ce n'est pas le fétichisme de la marchandise, ce sont des fétichismes archaïques. Le fétichisme archaïque surgit avec la temporalité marchande. Et là, il nous faut poser l'arc historique général. Qu'est-ce que le communisme? Le communisme supérieur, qui découlera de la dictature anti-étatique du prolétariat, c'est le communisme de l'homme total. L'homme total. Alors, l'homme total, c'est pas Prométhée. L'homme total, au regard des manuscrits de 44, c'est l'homme qui est en totale capacité d'assumer la totale réalisation des désirs, des érotismes, des consciences et des voluptés de son être générique. L'homme total, ça n'est rien d'autre que l'homme qui peut enfin être lui-même en humanité générique sans entrave de non-humanité. Et ça, l'homme total, ça n'a jamais existé. L'homme total n'existera que au terme de la dictature anti-étatique du prolétariat qui abolira l'argent, la marchandise, l'échange, l'aliénation et qui permettra alors l'auto-émancipation radicale du naturalisme achevé. Qu'est-ce que l'être générique? C'est le naturalisme achevé. C'est le naturalisme qui n'est plus entravé par aucune puissance d'antinaturalité. Cet homme total n'a jamais existé. Et l'homme du communisme primitif, c'est l'homme partiel. L'homme du communisme primitif est bien un homme, mais il est partiel parce que son espace-temps, sa volupté, sa conscience, son savoir n'atteint jamais l'universel de l'homme total. Il est homme local. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est homme local que quand surgira la révolution néolithique de la valeur d'échange, se produira la gigantesque cassure aliénatoire qui produira les modes de production de l'échange, parce que comme il était l'homme incomplet, il ne pouvait pas avoir la conscience et la défense radicale générique d'une complétude qui n'existait pas. C'est pour ça que, contrairement à effectivement toute une série d'images d'Épinal, jamais les communistes n'ont voulu retourner au début. Parce que précisément, si on retournait au début, ce serait pour refaire exactement tout ce qui s'est passé depuis le début, puisque tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis la révolution néolithique de la valeur d'échange, c'est que l'aliénation a pu se répandre sur le monde parce que l'homme de la communauté communiste primitive vivait un communisme premier, un communisme primaire, un communisme inaccompli, qui n'était pas le communisme de l'être générique accompli. Donc, on a l'homme total du communisme supérieur et on a l'homme partiel du communisme primitif. Mais qu'est-ce qu'on a entre les deux? On a entre les deux l'homme dépossédé de son humanité. Mais l'homme dépossédé de son humanité ne l'est pas de la même manière au XIIIe siècle, au XVIe, au XVIIIe, au XIXe, en Asie, en Afrique, en Amérique ou en Europe. Tout le travail que le groupe Marx Engels a fait sur le mode de production féodal, sur le mode de production asiatique et sur toutes les réalités aliénatoires a montré que dans les champs d'aliénation, de domestication et d'exploitation précapitaliste, l'homme est arraisonné par une puissance extérieure qui asservit sa naturalité. Qui asservit sa naturalité. L'homme d'avant le capital est donc un homme de naturalité asservie. Mais il est un homme de naturalité, virgule, asservie. La grande spécificité du fétichisme de la marchandise, sixième chapitre, livre 1, livre 3, une réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus mystérieuse, nous dit Marx, que dans le mode de production féodal. Le mode de production féodal aliène les hommes, mais il leur laisse leur naturalité, qu'il asservit, qu'il assujettit, qu'il domestique, mais la naturalité est toujours là. Progressivement, avec le mode de production capitaliste, c'est-à-dire avec la dictature totalitaire de la valeur d'échange, se met en marche la réification des personnes et la personnification des objets. Et Marx insiste énormément dans le sixième chapitre que cette dialectique réification des personnes, personnification des objets, va, au passage de la domination réelle en 1914, franchir un pas décisif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où le capital se met en mouvement, il s'autonomise comme puissance complexe et mystérieuse jusqu'à aboutir dans la domination réelle supérieure à cet automate central nébuleux, cette gigantesque bacchanale mécanique de la plus-value relative qui produit un satanisme de la marchandise, c'est-à-dire un champ absolument mystérieux et fantasmagorique. Et c'est la première fois qu'on a un mode de production qui produit cette réalité-là. Dans le mode de production féodale, dans le mode de production féodale, quand le paysan autour de la meule écrase le grain, il sait que c'est parce qu'il fait tourner la meule et qu'il écrase le grain qu'il résulte de l'amas des grains une valorisation possible qui va progressivement faire passer l'économie naturelle à l'économie monétaire. Même le paysan le plus débile comprend la productivité, comprend la production, comprend le pouvoir, et il n'y a pas cette réification des personnes et cette personnification des objets qui renverse les manuscrits de 44. Le fétichisme de la marchandise, c'est l'indistinction, c'est l'inversion, et c'est le renversement. Qu'est-ce qu'il y a au bout dans la fantasmagorie des perceptions de la réification et donc du fétichisme de la marchandise? Il y a le renversement dialectique total qui fait croire que c'est le capital qui produit et que le capital produit parce qu'il veut bien embaucher le travail. Il y a un renversement total de toute l'histoire des perceptions qui n'a jamais existé auparavant. Et c'est pour ça que Marx nous dit que le capital peut créer une gigantesque fantasmagorie complexe et mystérieuse où tout est inversé et où tout est indistinct. Donc, le fétichisme de la marchandise est la structure aliénatoire spécifique propre au mode de production capitaliste. Tous les modes de production aliénatoires ont produit des fantasmagories aliénatoires. Bouddhistes, shintoïstes, judaïques, coraniques, mayas, toltèques, aztèques. Mais le moment où se crée une fantasmagorie aliénatoire supérieure jusqu'à renverser dans une indistinction généralisée tout le champ de la perception, c'est effectivement le fétichisme de la marchandise qui, grâce à l'idole travail, à l'idole valeur, renverse la totalité des perceptions puisque les personnes sont réifiées et les objets sont personnifiés. Donc, ça, c'est décisif. Mais Marx nous a donc rappelé dans tout le travail du groupe Marx que tout est périodisable et tout doit être périodisé. Le fétichisme de la marchandise, c'est pas la même chose au XIVe siècle dans une fabrique textile de Venise ou de Florence et dans une manufacture anglaise du XVIIIe siècle ou dans une usine cybernétique de la Silicon Valley. La violence des fétiches, le mensonge des fétiches, l'organisation totalitaire de la mystification fétichiste, elle a bougé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Michel, Quand le capital naît dans la révolution médiévale italienne des cités commerçantes du XIIIe siècle, j'ai une économie naturelle, nous dit Marx, qui à la marge, dans le champ de l'économie monétaire, voit naître une économie monétaire particulière qui va être celle de la capitalisation. Donc il est où le fétichisme de la marchandise au XIIIe siècle? Il n'est pas au marché aux bestiaux de Florence. Il n'est pas au marché aux légumes. Il n'est pas dans les villages paysans autour de l'agora commerçante. Il est dans une, dans deux, dans trois petites structures de tissage, de filature qui font surgir leur histoire. Mais il n'est que là. Et comme vous l'avez dit, il est minuscule. Il est à la borne, il est à la frontière, il est à la périphérie, parce que je suis dans une économie qui est structurée dans sa détermination supérieure comme une économie naturelle. Et chez Marx, comme chez Luxembourg, le concept d'économie naturelle est décisif. Et j'ai, parce que dans la longue décomposition de la féodalité, vu apparaître une économie monétaire, dans le champ de l'économie monétaire, une économie proto-capitaliste qui se met en mouvement. Mais elle va mettre, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, des siècles et des siècles. Ça veut dire que pendant des siècles et des siècles, j'ai des fabriques, j'ai des manufactures, j'ai des usines, j'ai la division du travail entre ville et campagne avec la domination des villes avec le capital qui se développe sur les campagnes, mais je n'ai pas ce que Marx va théoriser comme la cybernétique totale de la domination réelle supérieure et ce que nous appelons l'usine globale, qui n'apparaîtra qu'à partir des années 1970-1980 dans la phase supérieure de la domination réelle. C'est-à-dire que j'ai des gens qui vont au travail, vendre leur force de travail dans un espace social mixte où il y a le capital, mais où il y a l'antériorité du capital. Et quand nous parlons des cités italiennes du XIIIe siècle, c'est la société française du XVIIIe siècle, c'est la société française du XIXe siècle. Et c'est même, pour un certain nombre de tissus ruraux, de tissus artisanaux, la domination réelle du capital dans sa phase formelle, où plein de gens continuent à avoir des imaginaires, des rapports sociaux, des rapports affectifs qui datent d'avant. Donc, il y a toujours quelque part une distorsion entre la modernité capitaliste qui travaille pour l'après et le territoire où elle travaille, qui n'est pas l'après, mais qui est l'avant, puisque justement, elle va métamorphoser l'avant en après. La spécificité de la schizophrénie mégapolitaine, c'est d'être la fin de l'histoire du capital. À un moment donné, et j'attire l'attention de nos auditeurs sur le concept de totalité dialectique. La totalité dialectique est le concept clé dans toute compréhension historique du devenir, des luttes, des perceptions et des problèmes de compréhension et de conscience. À quel moment le capital devient l'économie monde de la totalité, de toutes les totalités? Et c'est ça la question de méthode qui est la difficulté du groupe Marx-Engels. Marx et Engels théorisent la domination réelle alors qu'ils écrivent et qu'ils vivent en domination formelle. Et ils théorisent la domination réelle en sachant que comme la domination formelle a une phase inférieure et une phase supérieure, la domination réelle aura elle aussi une phase inférieure et une phase réelle. Alors, il faut lire avec intelligence le sixième chapitre du Capital. Tout est déterminé par le procès de travail. Marx et Engels s'adressent à des lecteurs intelligents. Ils ne sont pas là pour nous donner l'intégralité des sujets, des verbes, des adjectifs, des adverbes et des significations. Ils sont là pour nous donner une clé méthodologique qui va nous permettre à nous, en héritier de ce patrimoine, d'être autonome en pensée radicale et en conscience révolutionnaire. Donc, il n'y a pas tout dans le sixième chapitre, dans un descriptif. C'est pas comme quand on va au restaurant, la carte, menu, alors entrée, dessert, type de vin, type de fromage, type de viande, type de légumes. Ils nous ont pas fait une carte. Ils nous ont produit une indication méthodologique de perspective radicale, ce que Bordiga appelle la compréhension du renversement de la biologie en nécrologie. Donc, j'en reviens à la baisse du taux de profit parce que pourquoi notre petite entreprise textile, pourquoi notre petite entreprise textile au XIIIe siècle à Florence ou à Venise s'est mise à grossir? Et pourquoi à côté d'autres entreprises ont surgi? Parce qu'il y a la baisse du taux de profit. On en revient toujours à la baisse du taux de profit. La baisse du taux de profit à partir du moment où une unité de production se met à travailler oblige de manière irréfragable, à produire en abaissant les coûts pour vendre davantage. Donc, dès que j'ai eu ma première entreprise, j'ai eu la baisse du taux de profit. Et comme j'ai eu la baisse du taux de profit, c'est pas, Marx nous le rappelle tout le temps, c'est pas la concurrence qui crée la baisse du taux de profit, c'est la baisse du taux de profit qui crée la concurrence. J'ai un gigantesque marché mondial qui se met en mouvement sur le terrain de la production. Mais Marx nous dit, l'homme, quand il produit la production, se produit lui-même comme sujet, objet de production. Donc, à chaque seconde où la production bouge, à chaque seconde où la production avance, le substrat de l'humain avance. Cet être générique qui n'a jamais été total et qui sera l'être générique de l'homme total au terme de la révolution, quand il y aura eu effectivement cette dictature anti-étatique du prolétariat qui aura aboli la marchandise, le salariat et l'État, c'est le stade ultime de l'histoire, quand l'histoire est abolie, que l'aliénation est abolie, que la politique est abolie, que l'économie est abolie. Mais que se passe-t-il entre la révolution néolithique, la révolution capitaliste du XIIIe siècle et ce que Marx appelle la domination réelle et que nous appelons au bout de la domination réelle réalisée, l'usine globale? Eh bien, c'est la prise de pouvoir totale par la réification, par le fétichisme de la marchandise, de la totalité de l'espace-temps, de la vie humaine et de l'imaginaire humain, et de l'imaginaire humain et des affections humaines. Donc, à un moment donné, la division du travail entre ville et campagne, elle est absorbée, elle est subsumée dans une unité supérieure qui est la mégapole de la réification. Aujourd'hui, je vais au fin fond de la Savoie, au fin fond de la Savoie, dans un malheureux village où il y a trois bicoques. Je suis dans l'usine globale de la mégapole de la réification. Pourquoi? Parce que puisque la planète marchandise s'est emparée de la totalité du monde, elle s'est emparée de la totalité des espaces-temps, de l'imaginaire des hommes. Et même le type qui vit dans la zone la plus reculée a un système d'affection, de perception, de réception qui est programmé par la cybernétique du capital, même s'il est à 600 km de la première usine métallurgique qui fait du bruit et qui fait couler de l'huile. La mégapole est l'unité substantielle de la réification. Elle est partout, même là où il n'y a que de la neige et des marmottes. C'est la réalité d'un espace-temps qui a été vampirisé. Et donc, ce que Marx nous fait bien comprendre dans le sixième chapitre et dans le livre 3, c'est que baisse du taux de profit, surdétermination de la plus-value relative sur la plus-value absolue. Mais au bout, c'est une surdétermination qui devient phagocytose. La phagocytose de la plus-value absolue par la plus-value relative, c'est la phagocytose de tout substrat humain par la réification, par la chosification. Au bout de la domination réelle, au bout de la domination réelle, l'usine globale, c'est faite usine totale. L'usine globale, c'est le fait que sur la totalité des champs géographiques de l'espace-temps de la capitalisation, la plus-value relative, le diktat de l'automate central de la cybernétique capitaliste est partout. Et partout. Et j'en reviens toujours parce qu'on a des correspondants qui nous intéressent, qui nous interrogent sur Walter Benjamin, sur Viulac, sur Bernanos, etc. La machinerie n'existe pas. Ce qui existe, c'est la machinerie de la plus-value relative. Nous ne vivons pas le temps des robots. Nous vivons le temps des robots de la plus-value relative. Il y a des robots partout parce qu'il y a la baisse du taux de profit. Donc la machinerie de l'usine globale s'est emparée de la totalité du monde. Parce que l'usine globale de la plus-value relative est devenue l'économie monde obligatoire. Mais l'usine globale est devenue l'usine totale parce que la plus-value relative, ce n'est pas simplement un agencement industriel, c'est le degré supérieur de la réification. De la même manière que la domination formelle a été un processus, la domination réelle est un processus et c'est le processus de la conscience schizoïde. On a dit tout à l'heure que dans les sociétés non capitalistes, l'humanité est dominée. Dans le capital, l'humanité est renversée. L'humanité est produite comme indistinction. Elle est produite comme renversement d'elle-même. Elle est produite comme négation d'elle-même. Elle est produite comme déchet, comme épave, comme abrutissement marchand. Au bout de la dictature réalisée de la cybernétique du capital, en domination réelle supérieure, quand toutes les crises de la baisse du taux de profit ont réagencé l'économie monde, j'ai la réification totale. Alors c'est quoi la réification totale? La réification totale, c'est que un homme n'est plus un homme. C'est une chose. Il n'est pas simplement chosifié dans le grand agencement industriel de l'usine globale et de l'usine totale, parce qu'il serait un rouage chosiste de l'accumulation du capital sur le terrain du marché mondial. Puisque la réification de l'usine globale est la réification de l'usine totale. Elle est l'usine totale de l'homme tout entier phagocyté. De la même manière qu'il y a une phagocytose de la plus-value absolue par la plus-value relative, il y a une phagocytose de ce qui subsiste d'être humain par la réification. Et c'est ce qui est décisif pour comprendre ce que sera la révolution. Un mode de production, nous dit Marx dans l'introduction de 1857, n'est renversable dans son procès de caducité, c'est-à-dire dans la dynamique déterministe d'émergence de l'automouvement qui abolit ses auto-présuppositions, quand il a contenu la totalité qu'il pouvait contenir. La totalité qu'il pouvait en contenir. Quelle est la totalité que le capital peut contenir dans la dialectique de chosification et de réification? Ben, c'est la totalité de l'homme, renversé, indistinct, comme chose, comme épave, comme détritus. Toute l'histoire nous a appris que l'homme est un zoon politikon. C'est un homme politique qui, parce qu'il est un homme politique, va pouvoir produire la révolution sociale du manifeste communiste comme révolution antipolitique. Donc, qu'est-ce que l'homme? C'est un zoon historikon. Il l'a toujours été. Dans toutes les étapes de l'histoire, l'homme est un zoon historikon et au XIIIe, au XIVe siècle, il prouve qu'il est un zoon historikon. Parce qu'à chaque moment de tension entre l'en-soi et le pour-soi, il peut prendre la faux, il peut prendre la fourche et s'insurger. Qu'est-ce que l'insurrection? C'est la réalité objective du fait que l'homme a servi, l'homme a raisonné, est un homme à raisonner, donc encore un homme. C'est-à-dire un homme d'intentionnalité historique qui sait que pour faire vibrer son être générique, il doit passer de l'en-soi au pour-soi par l'agir subversif. Et le passage au capital dans la domination formelle, ce temps où la réification est donc formelle, l'homme arraisonné par la réification a encore un être générique qui est capable d'intentionnalité. C'est la commune de Paris, c'est la commune de Berlin, c'est la commune de Barcelone, c'est la commune de Budapest. L'homme existe en résistance à cette réification qui veut l'absorber dans l'usine totale globale, mais qui n'y est pas parvenue. L'usine globale ne peut devenir l'usine totale de la réification totale que quand, à un moment donné, la phagocytose de la plus-value absolue par la plus-value relative est réalisée, parce que derrière l'agencement industriel que ça implique une structuration de la formation sociale qui est vampirisée et totalement ingurgitée par la loi de la réification. Et la dernière grande manifestation radicale, la grève sauvage de 68, qui pose une intentionnalité radicale de réappropriation, elle a lieu en ce même temps où le gauchisme de la marchandise, comme expression supérieure de la réification narcissique, du débris schizoïde, se met en mouvement. Et que se passe-t-il depuis cette période-là? Bah, depuis cette période-là, la domination réelle supérieure de l'usine globale a produit les conditions objectives de l'usine totale, autrement dit, la production des conditions objectives de circulation des objets marchandises sur le marché mondial, a fait de l'homme réifié schizoïde l'objet marchandise central. Et on en revient à ce qu'on a dit à plusieurs reprises dans différentes émissions. Il y a toujours eu de l'histoire en radicalité. Le logos grec est né avec la radicalité. L'incarnation christique a dit la radicalité. Contre les continents de la temporalité immobile du village oriental rétrograde, la décomposition féodale a fait surgir une réalité subversive, mais une réalité subversive que la réification de l'usine globale est en train de faire totalement disparaître. Au XIXe siècle, quand Varlin, quand le français, quand Valès parlent, et qu'il y a des dizaines et des dizaines de tracts, de journaux, de grèves, d'insurrections, que la Commune de Paris vient signifier toute la puissance révolutionnaire contre le salariat, contre l'État et contre la marchandise. Il existe une multitude d'endroits, par-delà la manufacture, par-delà l'usine, où l'homme est encore dans une conjugaison de saveurs, d'érotisme et d'être générique de sa vie humaine. Aujourd'hui, et c'est ça l'usine globale, c'est ça la schizophrénie mégapolitaine du capital, il n'existe plus aucun endroit où le capital serait absent. Le capital est devenu la substance de la mondialité mondiale. Mais quand je dis qu'il est devenu la substance de la mondialité mondiale, il est la substance de la mondialité industrielle, commerciale, agraire, maritime, terrestre. Mais il a mangé tout ce qui subsistait d'intentionnalité historique. Aujourd'hui, un être humain, alors on en reparlera parce que justement c'est ce qui est décisif pour comprendre le caractère fétiche de la marchandise, on a parlé à plusieurs reprises de l'en-soi, du pour-soi et du retour à soi. Dans toute l'histoire de l'humanité, à un moment donné, se pose la question de l'intentionnalité historique qui définit la naturalité de l'homme. Et qui fait qu'il n'est ni un minéral ni un végétal, il a la capacité d'abolir le donné initial parce qu'il veut donner à la substance de son être générique la signification du désir, la satisfaction de la volupté et la compréhension radicale de la temporalité révolutionnaire qui travaille. Qu'est-ce qui aujourd'hui est décisif? C'est l'inverse. On est dans un monde d'épaves Et la grande prison du fétichisme de la marchandise a tué tout désir de subversion. C'est-à-dire que il y a 30 ans, il y avait la guerre du Vietnam. Enfin, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y avait la guerre du Vietnam. Il y avait eu 60, 70 ans, il y avait eu la guerre d'Algérie. Il y avait tous les groupes. Tous les groupes contre-révolutionnaires du gauchisme de la marchandise qui appelaient à soutenir l'indépendance algérienne ou l'indépendance vietnamienne, mais il y avait des centaines et des centaines de groupes et des milliers de tracts qui, tout en dénonçant la boucherie capitaliste qu'il pouvait y avoir là-bas, dénonçaient les luttes de libération nationale et appelaient à l'abolition du salariat. Et appelaient à l'abolition du salariat. On était dans une temporalité où la réification totale de la marchandise n'avait pas asservi la totalité des intentionnalités humaines, et le projet communiste, abolition du salariat, il existait, et il n'existait pas autour de deux ou trois bons hommes dans un coin, mais il y avait des milliers de gens qui faisaient production de journaux, de tracts, et qui se battaient sur la transformation sociale comme production justement d'anti-réification. Aujourd'hui, oui, tout le monde abruti derrière le truc Hamas, Israël, Ukraine, Russie et l'abolition du salariat. C'est fini. Et ça, c'est la réification supérieure. C'est l'usine globale. C'est l'usine totale. C'est-à-dire que au moment où la schizophrénie mégapolitaine de l'usine globale est totalement réalisée, la perspective communiste disparaît de la lisibilité. Elle disparaît de la lisibilité. Et je termine là-dessus. Donc, dans l'introduction de 1857, Marx positionne le problème de la totalité. Alors, tous les abrutis de l'école de Francfort, tous les suicidaires de l'éducation nationale vous disent, c'est bien la preuve qu'il n'y aura jamais de révolution, puisque maintenant le capital a tout digéré. Mais c'est l'inverse. C'est précisément parce que je suis dans la schizophrénie mégapolitaine du capital qu'il n'y a plus aucune activité, que tout est devenu passivité chosiste généralisée et obligatoire, que j'ai la preuve que le capital est en train de réaliser la substance de sa domination réelle totale. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de la domination réelle totale? J'ai bien évidemment l'usine globale universelle de l'abrutissement généralisé. Mais j'ai en même temps l'impossibilité pour le taux de profit de continuer à fonctionner, puisque l'ensemble des contre-tendances ont tout été ensemble intériorisés et absorbés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'un côté les manuscrits de 44 et de l'autre côté les Grundrisse, il n'y a pas d'un côté le sixième chapitre et la critique du programme de Gotha, et puis quelque part entre les deux, l'idéologie allemande qui se balade. La compréhension communiste, elle est globale. Du point de vue de la formation sociale de la capitalisation et du point de vue de la formalisation sociale de l'idéologie de la capitalisation. C'est au moment ultime de la schizophrénie mégapolitaine du capital, quand tout le monde est abruti dans une passivité généralisée qui fait que personne ne comprend plus rien, que j'ai l'indicateur que le capital est au bout du fait qu'il a digéré par la phagocytose de la plus-value absolue par la plus-value relative, l'intégralité de la naturalité humaine dans la réification du capital. Alors, si le capital a tout réifié, si le capital a tout intégré, ben il ne peut pas s'effondrer. Ben si, il peut s'effondrer, parce que c'est au moment où il a tout intégré qu'il met en marche le progrès de son auto-invalidation et le progrès de sa caduc le procès de sa caducité, parce que je suis au bout de la baisse du taux de profit. Et alors, aujourd'hui, alors on va y revenir sur l'abrutissement généralisé, mais c'est ce que nous dit Marx dans les manuscrits de 44. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de l'être générique? Au cœur de l'être générique, il y a cette passion qui n'existe plus, nulle part, mais qui existe en soubassement, dans la conscience du désir, dans le désir de la conscience, dans cette unité de la vie qui veut jouir. Vous prenez le mec le plus abruti, mais le plus abruti de tous les abrutis. Et c'est ce que nous dit Marx dans les manuscrits de Cahors. Qu'est-ce qui peut le réveiller? Ben, l'amour. Le type qui ne croit plus en rien, qui est totalement avachi, réifié. Quelle est la seule chose qui peut nous émerveiller? C'est ce que toute la capitalisation et la réification n'a pas pu manger. La réification, la capitalisation, la domestication, elle nous a réduits à être des choses. Elle nous a réduits à être des objets réifiés. Mais nous sommes des objets réifiés en ce sens que nous n'avons plus aucune intentionnalité. Mais cette intentionnalité qui n'existe plus, elle n'a pas fait de nous des minéraux ou des végétaux, même si dans des métaphores, Marx parle des objets inanimés rattachés à l'automate central du capital. Chaque homme, à un moment donné, peut être réveillé par cette électricité de la caresse, du regard, de la tendresse, de la jouissance. Il n'y a que l'amour qui soit révolutionnaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout de l'usine globale de la schizophrénie, où tout est mort, où il n'y a plus rien? Il y a précisément la baisse du taux de profit qui fait qu'à un moment donné, la réification n'est pas un stade terminal éternel, c'est un stade terminal de la capitalisation qui est momentané et qui lui-même travaille à sa propre invalidation, c'est-à-dire à sa propre auto-négation. Et c'est précisément parce qu'il produit son auto-négation que l'humanité, au terme de cette déchéance, peut se réveiller par l'éveil de conscience, par l'éveil de désir, puisque au terme de l'histoire, nous dit Marx, toutes les auto-présuppositions s'invalident, toutes les positions de formalisation deviennent auto-négation. Donc tout devient auto-négation, même la réification. Donc dire on est aujourd'hui dans la schizophrénie mégapolitaine de la réification accomplie, ça nous permet de comprendre pourquoi on est entouré d'abrutis, ahuris, incultes, domestiqués, pour qui toute la richesse de l'abolition du salariat et de la première internationale a disparu, puisque aujourd'hui on a ou des abrutis endormis sur un canapé pouilleux, ou effectivement des porteurs de valises d'un gang capitaliste contre un autre gang capitaliste. En 1871, en 1848, a surgi, dans le cadre de la Première Internationale et des groupes radicaux, cette nécessité révolutionnaire à bas la politique, à bas l'économie. Aujourd'hui, tout le monde est dans la passivité, et la politique et l'économie, qu'elles soient actives ou passives, c'est l'endormissement de la passivité chosiste. C'est l'inculture généralisée, mais on est au bout. Tout cela nous dit que nous sommes au bout, c'est-à-dire dans ce moment où l'invalidation va se produire.
Continuer, je vais reprendre un de vos termes. Alors, ça sera pas l'amour, hein, ça sera. Vous avez employé le terme de puissance extérieure qui a servi l'homme. Et pour cela, je vais revenir sur une citation de Marx du livre 1 du Capital qui est passé dans la bande-annonce juste avant l'émission, où Marx fait l'analogie entre le monde religieux et le monde marchand, où il précise que le monde religieux est issu du cerveau de l'homme et que le monde marchand est issu de la main de l'homme. Et déjà plus tôt, au niveau de la religion, en 1843, dans la contribution de la critique du droit philosophique de Hegel, il faisait une critique de la religion en expliquant que ce n'était pas la religion qui faisait l'homme, mais que c'était l'homme qui faisait la religion. Donc, soit la religion, le monde marchand, produit du cerveau de l'homme, produit de la main de l'homme, même si on ne saisit pas tout, on se dit qu'il y a quelque chose qui part de l'homme, ça part de l'homme. Et quand on parle d'abolition de l'argent, quand on parle du fait que l'homme ne peut pas contrôler l'argent, que c'est l'argent qui contrôle l'homme, là on en revient à cette, il y a une perturbation du fait que, mais on décrirait une puissance étrangère, c'est-à-dire que ça part plus de l'homme, il y aurait une puissance étrangère qui s'imposerait aux hommes. Et cette puissance étrangère, mais Marx en parle très bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester aux citations, mais il faut faire l'effort de rentrer dans le livre, parce que quand Marx parle de la main de l'homme, par la main de l'homme, il veut dire le mode de production, et le mode de production déterminé produit la consommation, produit la distribution et produit tous les rapports qui vont avec. Souvent, quand on parle d'économie, Il y a une limitation. Enfin, quand on parle du mode de production capitaliste, les gens se représentent le fait de produire une marchandise. Là, elle produirait l'argent. Mais non, le mode de production capitaliste, surtout s'étendant et en arrivant dans la phase de domination réelle supérieure, produit la totalité du mode de production de nos vies, donc de nos émotions, de nos sexualités. Donc, on va poursuivre avec plusieurs exemples de la schizophrénie mégapolitaine du capital, voire toutes les séparations qu'il y a là-dedans. Mais je voulais revenir sur ça, sur la main de l'homme qui produit tout et qui produit les cerveaux humains. Et comme l'a dit Michel, quand il y a une passivité inculte qui peut paraître très active. Il y a des gens qui vont se secouer, se battre, mais du fait que c'est des cerveaux produits par la main de l'homme, par le mode de production, c'est des cerveaux qui vont continuer vouloir trouver des solutions économiques dans le monde de l'économie parce qu'ils ne comprennent pas la racine de l'économie. On comprend les trois fonctions de l'économie, mais personne ne va aller sur l'apport majeur de Marx, qui fait que l'argent est d'abord une relation sociale aliénée. Aliénée, ça veut dire que la main de l'homme produit lui-même une puissance étrangère, donc vous avez parlé de puissance extérieure, mais il y a une puissance aliénée, une puissance étrangère qui va dominer l'homme. L'homme est dominé par son produit. Et ça, on peut en parler par métaphore, mais après, c'est pour dire aux gens de rentrer là-dedans. Et ça, c'est le point de départ de ce qui va donner le fétichisme de la marchandise et de ce qui va donner ce qu'on appelle maintenant la schizophrénie mégapolitaine du capital. Mais toutes ces séparations ont ce point de départ, et c'est important d'avoir ça en tête, parce que si on reste sur une époque donnée, Michel a parlé des dominations formelles, réelles, mais si on prend un secteur et qu'on veut comprendre le monde à partir d'un secteur, et beaucoup de gens veulent comprendre le monde à partir des années 60, si on prend qu'un secteur, on ne comprend pas ce fil directeur, et comme vous l'avez dit Francis, on ne comprend pas que il y a eu une nécrologie, un déploiement, et on n'a pas la certitude de la fin, et c'est pour ça qu'à l'infini, on va avoir de plus en plus dans l'intensification de la crise, tout un tas de fausses solutions faites par des gens dans une activité réifiée qui est en réalité une passivité inculte. C'est pas pour être péjoratif qu'on dit ça, c'est de façon objective. Quand on s'agite pour du vide, on est dans une passivité au regard de l'objectivité de l'histoire. Donc voilà, je voulais juste réinsister sur ça avant qu'on prolonge sur des exemples et sur le développement de la schizophrénie mégapolitaine du capital.
Alors, puisque Maurice ne veut pas parler d'amour, je vais m'y coller. L'amour, il faut bien comprendre ce que vous dites, Francis, comme l'amour n'a pas un pouvoir, le sentiment amoureux n'a pas pouvoir magique de chambouler quelque chose hors du désir du personne qui le ressent, de la personne qui le ressent. C'est pas je tombe amoureux, donc tout se transforme. La
Je
plupart
monte,
des
je monte.
Donc, il y a une étincelle qui fait que ça devient possible si je veux faire fructifier cette étincelle, la faire s'enflammer, et que je veux que ce rapport naissant soit vrai, alors je me mets en activité de transformation de la totalité et tout est possible. Mais ce n'est pas un sentiment qui fait que se transforme. D'ailleurs, dans la schizophrénie mégapolitaine capitale, le sentiment amoureux, c'est le moment de chosification ultime, qui fait qu'on recompose un aller mal où tous les rapports sociaux sont chosifiés, et qui fait que ça y est, d'ailleurs on se met à croire que ce truc spécifique est hors du rapport social aliéné parce qu'on ressent quelque chose d'excitant. Mais c'est précisément l'inverse. Là, quand cette situation merveilleuse arrive, c'est immédiatement l'enjeu central de la merveille ou de l'enfer. Pas l'enfer au sens où ça va mal se passer, mais si ça se passe bien sur le terrain chosifié qui m'y a amené et que cette étincelle ne me fait pas de transformation qui fait que, mais oui, je veux tout transformer à partir de là, bon, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est toujours pareil. Vous parlez j'en ai parlé au début, vous avez précisé après, on est coupé en réalité de son agir. Si j'ai un sentiment d'amour, même très puissant, mais qu'il ne débouche pas sur un agir neuf qui abolit toute ma passivité inculte dont tu parlais, Maurice, ben cet amour n'est pas un amour. C'est une compensation. Et précisément, ce lieu doit être le lieu de ressaisie de mon désir qui m'a été arraché. Maurice, tu parlais du rapport échangiste. Comme l'humain ne jouit que dans le rapport à l'autre, et qu'il ne se produit lui-même que dans ce rapport à l'autre, il a donc un besoin absolu, permanent, du rapport à l'altérité. Mais comme tout rapport à l'altérité est produit par le fétichisme de l'échange, il a besoin naturellement de désirer ce fétichisme de l'échange pour rentrer en contact avec une altérité. Et il se met donc à le reproduire à chaque instant. Sans voir, et c'est ça la schizophrénie et l'aveuglement, sans voir que son désir n'est pas son désir. Il y a un fétichisme de l'autonomie et de l'indépendance à une époque où plus personne n'est autonome et plus personne n'est indépendant, mais pas seulement au travail, dans aucun rapport particulier. Autonomos, c'est-à-dire ma propre loi, la loi de mon désir. C'est jamais la loi de mon désir. On a parlé hier dans le groupe de l'alimentation en lien avec l'émission récente qu'on avait fait sur l'alimentation. On avait mis une citation d'Homère, enfin de Kautsky reprenant Homère, Homère qui expliquait donc dans les tout premiers textes de notre histoire radicale européenne, les tout premiers, l'Iliade, l'Odyssée, il explique que les humains désirer, les Grecs désiraient de la viande en quantité et de la graisse florissante. C'est le mot qu'il utilise. Aujourd'hui, au bout du fétichisme de la marchandise, il y a des gens qui disent désirer manger végétarien. Sauf qu'ils ne le... Ils vont affirmer un désir. Non, je veux pour telle ou telle raison, etc. Sauf qu'ils ne le désirent pas au sens propre. Parce qu'ils ont découplé le besoin et la médecine, la science, la pseudo-science du capital l'avait fait avant eux, qui n'est pas une pseudo-science d'ailleurs, c'est la science aliénée du capital. Le gras, la viande, ça me fait plaisir aux papilles, mais le capital m'explique que ça me fait du mal à mon corps. Donc, ce que j'aime est mauvais pour moi. C'est comme si on imaginait qu'un lion mange de la viande, mais que ça ne va pas pour sa santé, il ferait mieux de manger un peu plus de végétaux. Par définition, mon désir n'étant que l'expression de ce que je veux accomplir pour me réaliser, si je désire du gras et de la viande, et comme par hasard Homère nous le dit d'entrée, et il ne fait que dire ce que les hommes, et avant ça les hominidés depuis 3 millions d'années, ont toujours fait. Il va de soi que mon désir est là pour satisfaire mes besoins objectifs. Et maintenant, on trouve des médecins, donc des gens aliénés dans la séparation et dans la division du travail, mais honnêtes, qui redécouvrent ce qu'ils appellent le régime cétogène, qui en fait, derrière un nom barbare, dit simplement l'alimentation naturelle des hommes depuis la nuit des temps, et il découvre comme une chose effarante, c'est que ce qui nous fait du bien et ce qui fait qu'on évite toutes les maladies, c'est quand on mange de la viande et du gras en quantité, un peu de légumes et quasiment pas de sucre. Les médecins, à la fin, le redécouvrent sous l'aspect du besoin. Mais Homère le dit tout au début, du point de vue du désir. Et l'histoire totale nous dit que finalement, mon besoin, c'est mon désir, et mon désir, c'est mon besoin. Et les végétariens nous expliquent qu'ils se mentent à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils doivent saliver devant un steak, mais ils pensent que le bien est contraire à leur désir spontané et corporel. Et ça, c'est un exemple typique de la division, c'est-à-dire qu'il y a une unité totale qui est perdue, et donc redevenir autonome, c'est retrouver la loi. C'est un peu ce que disait Spinoza. Spinoza disait être émancipé, c'est s'autodéterminer à agir selon la seule nécessité de ses besoins. On rajouterait avec Marx générique, de sa nature générique, et qui, par définition, est l'antithèse de ce que je ressens. Et c'est ce qui est très compliqué pour les gens de se dire que je suis complet de mon désir. Ils vont dire, ben non, ils vont me dire non, je désire plein de choses. Mais ils ne comprennent pas que leur désir n'est pas leur désir. Aucun humain Si on pouvait voyager dans le temps et faire écouter du rap à un humain à n'importe quel moment de l'histoire humaine, ils se boucheraient tous les oreilles. Le fait que qu'un humain désire, à un moment donné de l'histoire très spécifique d'ailleurs, celui qu'on est en train de décrire, de la schizophrénie mégapolitaine du capital, que la plupart des humains préfèrent cette merde et le sentiment de la savourer, ça dit la coupure par rapport à cette essentialité première qu'il faut reconquérir, et donc en antithèse du ressenti désirant premier. Donc c'est particulièrement compliqué, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on a besoin de rentrer en permanence en contact avec les autres, ben, si j'oppose à l'autre l'horreur du rapport qui nous a mis en contact l'un à l'autre, ben, l'autre il veut se barrer. Donc, et comme les gens ne veulent pas que l'autre se barre, parce qu'on vit à travers l'autre et dans notre contact à l'autre, ils sacrifient la vérité de leur désir, de leur faire, de leur amour, etc., à la nécessité de conserver le rapport. Ce qui est une difficulté terrible, mais au bout du bout, c'est sans solution. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, c'est n'accepter que les rapports d'authenticité dans tous les aspects de la vie, au prix de tout le reste. Et ce qui est possible, vous parlez du bout, c'est possible. Enfin, nous, avec toutes nos difficultés et nos aliénations, c'est possible de le vivre dès maintenant. C'est un choix, c'est pas un choix cérébral, mais c'est un choix désirant du fait qu'à un moment donné, je ne veux plus rien d'autre que ça.
Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit sur le désir. Pour que les auditeurs comprennent ce qu'est la schizophrénie mégapolitaine, il faut repartir des manuscrits de 44. Dans les manuscrits de 44, Marx nous dit, la relation la plus naturelle de l'homme à l'homme, c'est la relation de l'homme à la femme. Et dans cette relation qui est la relation la plus naturelle de l'homme à l'homme, qui est la relation de l'homme à la femme, il y a l'amour. Amour, AMR, la racine indo-européenne du grandir. L'amour, la volupté, la jouissance, c'est ce qui positionnera l'homme total de la jouissance totale. Je t'aime en totalité, je deviens en totalité, tu deviens en totalité, et c'est parce que je t'aime que la seule perspective d'amour vrai entre nous est un grandir qui nous sort de la névrose de cogestion des angoisses réciproques dans la réification accomplie. Et c'est à partir de là qu'il y a projection révolutionnaire. Il ne peut pas y avoir d'amour sans projection révolutionnaire, puisque seule la projection révolutionnaire tue la schizophrénie mégapolitaine du capital. Il y a deux trajectoires. Il y a l'homme des trajectoires fétichistes et il y a l'homme des trajectoires historiques. Durant toute l'histoire de l'humanité, l'homme a eu des trajectoires historiques, limitées, aliénées, échouantes, errantes, mais il a toujours été trajectoire historique. L'homme a toujours été trajectoire historique. Il y avait le tocsin qui appelait à l'insurrection. Des fourches et des faux, et puis il y avait l'appel à l'insurrection sociale vers l'abolition du salariat qui a produit toutes les communes ouvrières. Mais un homme, c'est un sujet historique qui se tient debout dans une trajectoire historique, et la trajectoire historique, dans ce qui nous renvoie à la phénoménologie de l'esprit, c'est l'abolition de la dialectique de la domination. C'est l'abolition de la dialectique du maître et de l'esclave. Donc un homme, c'est une trajectoire historique. Sauf que depuis que la domination réelle réalisée a produit la schizophrénie mégapolitaine de l'usine globale, l'homme n'est plus qu'une trajectoire fétichiste. L'homme n'a plus d'intentionnalité historique, c'est ce que je disais tout à l'heure, où il ne s'intéresse pas à l'histoire. Où il s'y intéresse comme à un décor extérieur, où il s'y intéresse pour y investir de manière réifiée dans la politique et l'économie au cul d'une écurie gouvernementaliste. Mais l'homme de la trajectoire historique, paysanne pour l'abolition de l'argent ou ouvrière pour l'abolition de l'argent, a disparu, puisque précisément dans la schizophrénie mégapolitaine du capital, la trajectoire fétichiste est devenue la trajectoire totale, totalement réalisée. Et il n'y a plus de trajectoire historique. Et pourquoi il n'y a plus de trajectoire historique? Parce que dans le cheminement de la triade en soi, pour soi, retour à soi, il y a un renversement dialectique dans l'ordre des tensions. Depuis les premières insurrections paysannes jusqu'à toutes les communes ouvrières, toutes les collectivités de combat et toutes les singularités individuelles qui y vivaient se sont retrouvées face à la triade en soi, pour soi, retour à soi. Je suis cet en soi premier, esclavagisé par une domination précapitaliste ou suresclavagisé par une domination capitaliste, et je suis cet en soi soumis, je suis ce donné initial, passif. Si je fais tension, je sors de ma singularité aliénatoire, je sors de mon solipsisme, je sors de mon narcissisme, je sors de mon enclosure spécifique de trajectoire fétiche, et je tends à l'historicité, puisque je tends à abolir l'en soi initial de ma servitude. Le passage de l'en soi au pour soi est une zone de turbulence dialectique. C'est un effort. Et c'est un effort qui est considérable, puisque je dois abolir ce que j'étais pour devenir ce que je dois devenir en l'être générique. L'être générique passe par la dialectique de l'en soi et du pour soi pour abolir la passivité initiale. Varlin, le français, Thomas Munzer, toutes les insurrections, Mounis, Durruti, Malatesta, Pierre Guillaume, sont des hommes qui, au moment où la turbulence s'est mise en mouvement entre l'en soi et le pour soi, ont assumé l'effort, la difficulté, la complexité, mais avec cette joie incroyable de détermination qui faisait que quand on avait enfin dépassé la zone d'abolition du donné initial pour devenir le pour soi conscient en perspective d'être générique, on respirait avec une joie de conscience, d'historicité et d'érotisme. Enfin, enfin, on était devenu l'auto-abolition de soi-même. C'était fantastique. Il y avait une volupté. Dans la schizophrénie mégapolitaine de l'usine globale, c'est l'inverse. Et on l'a vu nous-mêmes dans toute une série d'expériences avec des camarades qui sont rentrés un certain temps et qui n'ont pas pu tenir, qui ont donc lâché, qui ont abandonné et qui sont repartis dans l'enclosure fétichiste. C'est-à-dire que cette tension énergétique qui fait que Durruti, le Français, Malatesta ou Varlin vont souffrir s'ils reviennent en arrière. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas revenir en arrière, parce que la souffrance serait tellement insupportable qu'elle serait pour eux une insupportabilité ontologique. À partir du moment où la critique est rencontrée, je tiens bon, je dure, je ne lâcherai jamais et j'irai jusqu'au bout. Parce que c'est au bout qu'il y a la jouissance, c'est au bout qu'il y a le souffle, c'est au bout qu'il y a la respiration et c'est au bout qu'il y a l'aller bien générique. Nous, dans l'époque de la schizophrénie mégapolitaine du capital, on a rencontré l'exacte inversion dialectique. Des gens qui ont lâché pour aller mieux. Aller mieux génériquement dans le pour soi était insupportable. Par contre, revenir à l'enclosure fétichiste, avec toute la névrose quotidianiste, de la famille, des enfants, du mari, de la femme, du quotidien, du pavillon qui est acheté, du petit premier qui fait du judo, du petit deuxième qui fait de la piscine, des vacances qu'on prépare, a été pur respiratoire que le pour-soi. On a des anti-Durruti, des anti-Malatesta, des anti-Varlin, des anti-Le Français. La schizophrénie mégapolitaine du capital a renversé la dialectique de l'en-soi, du pour-soi et du retour à soi. L'homme de l'intentionnalité historique, par son auto-émancipation générique, respire dans une vraie jouissance, dans une véritable verticalité, parce que par cette négation que le pour-soi permet, toutes les pratiques fétichistes, quotidianistes, de l'abrutissement de la quotidiennité lamentable sont abolies. J'ai donc la véritable substance historique. Aujourd'hui, on a des gens qui souffrent de tenter d'approcher la substance historique parce que précisément la schizophrénie a produit une telle réification accomplie que qu'est-ce qu'un homme? C'est une res, un culte de passivité, chosiste, généralisé et obligatoire. Donc il faut comprendre cette réalité-là et il faut comprendre par rapport à ce qu'on disait avec Michel tout à l'heure sur l'amour, ce que disent les manuscrits de 44 sur l'acte de substance révolutionnaire. Si je rencontre ma compagne ou si je rencontre mon compagnon dans une véritable trajectoire d'érotisme, de tendresse, de caresse, de sève et de lumière, c'est parce que je débouche sur l'abolition de la schizophrénie, de l'enclosure du couple aliénatoire de l'usine globale. Et que je tends, à partir de là, à saisir la substance de l'universalité historique. Et c'est ce que pose Marx dans les manuscrits de 44. Si je devais répondre, quelle est la différence entre l'amour vrai et l'amour faux? Mais c'est que l'amour vrai ouvre la porte de la substance historique en faisant du zoon historikon la vérité d'un acte de substance, de transformation et d'abolition dialectique qui fait que le vrai pour soi est touché. Aujourd'hui, la relation affective dont parlait Michel, c'est le couple est un EHPAD de la schizophrénie mégapolitaine de l'usine globale. C'est le lieu où on se protège de l'histoire au lieu de vouloir transformer l'histoire. Et on en a parlé à plusieurs reprises compte tenu des correspondances qu'on avait. Cet homme contemporain qui s'excite avec la critique radicale pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, puis qui retombe comme sujet passif, servile de la domination réelle totale de la réification accomplie. Il ne s'intéresse à l'histoire que comme un vague décor extérieur. Et on l'a vu au moment de la dictature coronavirale. C'est le moment où tous ces individus de la schizophrénie mégapolitaine se sont agités. Mais ils ne se sont pas agités pour comprendre pourquoi la dictature coronavirale mettait en marche la fermentation idéologique de la mise en friche compte tenu de la baisse du taux de profit, ce qui les aurait amenés à se positionner éventuellement d'un point de vue révolutionnaire pour transformer le donné initial de l'histoire et le donné initial de leur vie quotidienne dans la misère de la solitude ou dans la misère du couple. C'était une agitation narcissique d'angoisse corporelle. J'ai peur, on va m'injecter. Et ça a été le moment où les gens se sont le plus agités en communication débile, à travers des courriels, à travers des envois, à travers des discussions, à travers des jacasseries. C'est-à-dire que l'homme de la schizophrénie mégapolitaine de la réification accomplie s'est excité le plus quand il s'excite un peu dans sa mort programmée sur la problématique des injections, parce que ça touchait narcissiquement son enclosure corporelle angoissée. Mais il ne l'a pas fait d'un point de vue historique pour transformer les causes de la problématique. Il l'a fait pour échapper narcissiquement à une angoisse. Et on était encore dans la représentation de la passivité chosiste, généralisée, inculte et obligatoire. Donc, ce qui est important, c'est nous sommes en train d'atteindre le point d'histoire où la réification accomplie de l'inculture passive, chosiste, généralisée et obligatoire, est totale. Nous ne rencontrons que des abrutis, mais Marx parle même d'excréments. la mère de l'économie politique du capital. Dans la domination réelle supérieure, le capital est excrémentiel total dans l'usine globale de production excrémentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme dans l'usine globale universelle? C'est un déchet absolu. Et c'est ce que produit la réification. C'est-à-dire que je n'ai plus de conscience historique, je n'ai plus de désir historique, je n'ai plus d'érotisme historique, je n'ai plus d'esthétique révolutionnaire, je n'ai pas de cuisine révolutionnaire, j'ai rien. Je suis cet objet inanimé, rattaché à la cybernétique et à l'automate central de la chosification du capital. Je ne m'intéresse à rien d'autre qu'à moi-même, à l'angoisse de ma solitude ou à l'angoisse de mon couple. Et quand je m'agite, c'est pour reproduire la politique et l'économie. Je suis à des années-lumière du manifeste communiste. Quand le manifeste communiste s'est produit comme cataclysme dans cette Europe des années 1840, il a non seulement transformé la perception des hommes, mais il a dit que les hommes transformaient leur perception parce qu'ils avaient positionné le fait qu'ils étaient des êtres historiques et que dans leur quotidien, dans l'amour, dans la relation à leurs parents, dans la relation à leurs enfants, dans la relation à tout ce qui fait la vie de chaque instant, ils étaient des puissances révolutionnaires de transformation pour abolir la politique et pour abolir l'économie. Aujourd'hui, tout est lessivé, mais tout est lessivé parce que précisément, on est au bout de l'usine globale. La réification est totale. Les gens emploient 4000 adjectifs de moins qu'il y a 2 siècles, 500 adverbes de moins. Il y a des verbes qui sont plus conjugués, il y a des repas qui ne se font plus, il y a des textes qui ne sont plus lus. On est au maximum, au maximum de la réification accomplie comme un culte passivité chosiste. On est au bout du bout. Mais alors, ce bout du bout doit nous amener à avoir un diagnostic d'une sévérité totale, puisqu'il confirme le travail de prévision du sixième chapitre. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Au bout, il n'y a plus d'homme. Il n'y a plus que des choses. Au bout, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus que des choses. Et au bout, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire. L'homme n'a plus d'histoire. Il n'est plus historique. Il n'est plus en l'histoire. C'est l'épave de la réification totale. Ça, c'est le diagnostic de sévérité absolue. Mais comme on a intégré la dialectique généralisée sur les formations sociales, on sait que quand on est au bout, le bout n'est pas un cercle vicieux éternel. Le bout marque une transformation sociale qui devient impossible. Cette réification, c'est l'impossibilité de la valorisation et c'est l'impossibilité d'élargir le champ de la valorisation de la réification. Marx et Rosa Luxembourg nous ont toujours dit, le devenir de l'échangisme, le devenir de la production de la réification, c'est qu'elle doit toujours s'étendre en reproduction élargie. La reproduction élargie, toujours plus élargie. Ce qui s'est passé depuis la révolution capitaliste du XIIIe siècle, sur le cheminement de la formation sociale capitalistique et de la baisse du taux de profit, c'est que la domination de la marchandise, dans sa forme matérielle comme dans ses formes symboliques et métaphoriques, est une reproduction élargie qui doit toujours s'élargir. Et elle tient parce qu'elle s'élargit. Elle tient parce qu'elle s'élargit. Et elle tient parce que la baisse du taux de profit est compensée par un élargissement de la masse qui n'est plus possible, qui n'est plus possible. Et au maximum de l'abrutissement dans cette réification totale, on ne peut pas abrutir davantage. On est au maximum de l'abrutissement. Donc, ce qui fait la dynamique de reproduction dynamique du capital ne peut plus être reproduction dynamique. Et on l'a dit à plusieurs reprises, l'étape supérieure de la crise de la domination réelle totale, c'est ce moment où l'équivalence centrale fétichiste ne peut pas se reproduire en termes industriels, en termes monétaires, en termes commerciaux, en termes agricoles, mais en termes de réification de l'être générique. On a atteint le point où l'être générique étant totalement absorbé par la réification, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Donc, ce que dit Marx dans les manuscrits de 44 sur le fait qu'il y a, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans cette naturalité qui, lui, ne peut pas être intégrée cette relation essentielle de l'homme à l'homme, qui est la relation de l'homme à la femme, ressurgit comme seule mise en perspective révolutionnaire. Au bout de toute cette réification qui a machinisé les hommes, qui les a réduits à être des épaves de l'automate central, l'homme totalement écrasé n'est plus dans ce qui est sa substance que dans un face-à-face à deux dimensions, la réification totale ou le ressurgissement de l'amour comme surgissement de l'être générique qui veut s'émanciper. Et là, on a la possibilité de l'homme total. Rappelez-vous toujours que Marx disait, la marchandise, c'est abominable, la marchandise, c'est abominable, mais c'est par la marchandisation du temps et de l'espace que le communisme premier, localiste, borné, étroit et condamné à mourir, peut rejaillir dans une forme supérieure qui est celle du communisme supérieur, parce qu'il est le communisme universel. Le communisme universel, le communisme supérieur, va pouvoir résoudre toutes les failles du communisme primitif, mais il ne peut les résoudre que parce qu'il est l'homme total universel de la totalité de l'universel et de l'universel de la totalité, parce que la marchandisation a créé l'universel. La marchandisation a créé l'universel de la baisse du taux de profit universel incoercible, et la marchandise a créé l'universel de l'homme réifié, totalement réifié, et donc, en négation de la négation, le surgissement de l'homme anti-réifié par l'amour radical de l'être générique.
Vous avez parlé de l'aller bien générique et dans l'usine globale et au stade où nous en sommes, dans la domination réelle, supérieure réalisée. Mais effectivement, il y a de plus en plus de mal-être dans la société de l'avoir, et il y a de plus en plus de séparation, de schizophrénie. Michel a pris un exemple sur l'alimentation très rapidement. Il y a de part les ruminations incessantes des images et des bruits de la modernité, l'être humain a besoin de silence. Maintenant, le capital nous revend du silence parce qu'il y a des stages de silence. Il y a un peu la même chose avec on entend parler de plus en plus du jeûne thérapeutique et de certains bienfaits. Mais on pourrait se dire, mais on va quand même pas nous vendre le fait de ne rien manger. Mais si, il y a des stages où on réunit les gens et les gens paient ensemble pour. Bon voilà, il y a des bars à eau, il y a des bars pour boire de la vraie eau, il y a des bars à oxygène pour respirer du vrai air. Et on en est réellement là. Et ce qu'il y a de plus en plus, et peut-être je vous poserai la question à vous deux, parce qu'on voit surgir ça de plus en plus, c'est-à-dire que on a parlé de conscience non universelle, et il y a de plus en plus dans ce marché du bien-être, dans cette schizophrénie qui fait que de plus en plus de gens, le capital fait croire aux gens que il faut absolument être s'équiper spirituellement pour qu'il y ait une richesse de vie intérieure qui partirait à partir de soi, et que plus il y aurait de gens comme ça, plus ça rayonnerait sur l'extérieur. Et là, on est vraiment dans la schizophrénie de braves gens qui peuvent être peut-être sincères, mais si je suis le capital, je ne peux pas rêver mieux de gens qui vont prétendre à une richesse intérieure, et que le monde changerait à partir de l'augmentation du nombre de gens qui augmenteraient leur richesse intérieure. Et ça, c'est une façon, c'est une immanence du capital qui emprisonne les gens dans ce marché du bien-être. Alors, vous avez parlé du bouddhisme, c'est comme on dit aux gens, vous allez aller moins mal, mais pour faire perdurer le mal, pour ne jamais regarder la cause. Et juste, quand vous avez parlé du Covid, effectivement, le moment le plus fort du Covid qu'il y avait à saisir, et c'est vrai qu'on a publié là-dessus, c'était bien la mise en friche. Il n'y a pas eu un virus qui a arrêté l'économie. Il y avait une économie qui s'arrêtait, qui a nécessité le coronavirus, mais ça aurait pu être un autre scénario, ça aurait pu être un passe climatique, ça aurait pu être autre chose. Il y avait une nécessité d'arrêter l'économie. Et si on veut bien faire l'effort, pas de regarder une partie, mais de prendre un peu de regarder un peu tout ce qui se passe, ceux qui veulent se référer à Poutine pour sauver le monde, Poutine a fait, a obéi au capital, à la mise en friche, et tout le monde, que ce soit en Russie, en Chine, tout le monde a subi ça. C'est pour dire que il n'y a pas d'écurie plus valable que d'autres. Et juste un mot, quand on parle de réification, c'est un exemple. On en avait parlé avec Michel dans une émission, mais qui est difficile à saisir, à expliquer. Donc, je vous passe la patate chaude. Ben, ce qui se passe maintenant, le fait qu'on des gens veulent changer de sexe. Il y a une réalité là-dedans, c'est que il y a un mal-être réel. Ça, c'est la réalité. Maintenant, le capital arrive à vendre autre chose, à tel point qu'on peut en arriver à alors on sait qu'il y a 0, quelques pourcents de gens à qui ça peut correspondre à une réalité physiologique, c'est-à-dire quasiment personne. Et donc, toute cette massification de travail, de schizophrénie et qui est là dans l'usine globale, fait que de plus en plus de gens vont se séparer, mais réellement dans leur genre, en plus d'être complètement séparés dans tous les autres aspects. Et ça, c'est quelque chose de colossal. Donc, je vous passe avec plaisir la patate chaude sur ces sujets.
Non, mais c'est
Vous voulez y aller,
exactement.
Michel?
Oh. Pardon?
Vous voulez y aller?
Oui,
Tu veux
oui, oui.
partir?
pas encore. C'est exactement la même chose que je te disais tout à l'heure sur les végétariens. Aucun humain dans l'histoire et aucun être vivant ne désire changer de régime. À un moment donné, ça n'existe pas. Je suis mon régime. Mon régime et ma constitution, je mange ma substance. On ne verra jamais un lion se dire, tiens, je dévie. Et un humain, sauf s'il est dévié par le fétichisme de la marchandise, et jusqu'à ce qu'il le soit, ben c'est un omnivore à forte dominance carnivore. Et c'est pas un mangeur de grains, c'est pas une poule. C'est pas un être qui mange des pâtes matin et soir. Ça n'existe pas, les pâtes. Et le rapport à son propre sexe, c'est pareil. Je suis la réalité qui m'a constitué. Donc, le problème, c'est qu'après, je suis en tel trouble à un moment donné de l'histoire, déterminé. Ça n'arrive pas en domination formelle, ça n'arrive pas en domination réelle inférieure. Et même en domination réelle supérieure, c'est très rare jusqu'à devenir presque une idéologie obligatoire. Mais l'idéologie obligatoire de la transformation de sexe, c'est la glorification de la coupure. Je me vis comme homme, non pas parce que c'est ce que je désire, pas plus que je suis carnivore parce que je le désire. Je suis ma réalité. Mais à un moment donné, il est absolument nécessaire. Le trouble de coupure de mon désir qui découle de ma coupure de mon activité va tellement profond qu'il va au bout du bout de ce que je suis, c'est-à-dire ma réalité sexuelle. Donc ça, c'est ce que ça construit. Mais évidemment, le capital l'adore et l'alimente et le justifie et trouve les solutions pour le perpétuer. On va vous opérer, on va vous donner de la chimie, et puis ça ouvre des nouveaux marchés. Alors qu'il faudrait simplement faire lire Hegel à ces gens-là. Ah, tu rigoles, c'est un peu compliqué. Quand on prend la phénoménologie de l'esprit, on voit bien que ma conscience de moi est le résultat de ma conscience du monde. Mon rapport à moi-même, c'est le résultat de mon rapport au monde. Je ne pars pas de ce que je ressens de moi-même. Mais quel que soit le niveau, pareil pour l'alimentation et pour tout le reste, je ne parle pas de ce que je ressens pour expliquer qu'il y a un problème dans la nature. Comme je disais tout à l'heure, je ne pars pas du fait qu'il faudrait manger du verre pour arrêter de manger de la viande. Je ne pars pas de ça. Parce que je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Je parle de ce qu'est un homme générique. Si je pars de ce que je suis, du fait que je suis un homme générique, et que malgré tout, j'ai un trouble identitaire, ben il est là, c'est pas ma faute, il est là. Mais je comprends, je le réagence immédiatement dans le fait que, mais qu'est-ce qui fait que je suis si loin de ma réalité générique? Et je sais que c'est pratique. Je m'empresse pas de courir au bistouri. Or, évidemment, le capital encourage immédiatement le bistouri, la coupure définitive. Au lieu de dire aux gens, vous êtes pas des, vous êtes coupable de rien, vous êtes une réalité historique aliénée qui est donc réversible dans l'anti-aliénation. Mais comme le capital, Francis, vous avez fixé sur la singularité, le moi, etc. Mais tout est là. Quand vous parlez du Covid, je pensais à Vermorel. On en a parlé récemment d'ailleurs, Vermorel. Les gens ne connaissent pas Vermorel. Vermorel, c'est quelqu'un qui, au début de la Commune de Paris, quand elle commence, donc c'est le 18 mars 1871, il n'est pas à Paris. Il est chez sa mère à Lyon. Et dans les jours qui ont suivi, il y a une élection par les Parisiens d'une commune dirigeante, mais pas dirigeante au sens qu'elle impose. Ils sont révocables à chaque instant, etc. Mais bon, peu importe cet aspect. Il est élu, Vermorel, à la commune par les Parisiens. Et il en est informé assez rapidement. Et immédiatement, et il explique, on a des textes, notamment de Le Français, immédiatement, en arrivant à Paris, il croise Le Français. Et Le Français s'étonne que Vermorel soit revenu à Paris, alors qu'ils savent tous, et Vermorel aussi, que ça va mal se passer pour eux, au bout du bout. Et pour Vermorel, il va de soi, pour sa réalisation d'humain, mais pas d'un point de vue narcissique et nombriliste, mais il va de soi pour sa réalisation générique, qu'il va y aller, et il précise à Le Français, même si on va probablement, la plupart d'entre nous vont y passer. Donc, et il y passe, il meurt, il prend une ou plusieurs balles pendant la semaine sanglante, et il met un mois à mourir dans la souffrance à Versailles, laissé à l'abandon par les Versaillais sans soins. Il n'avait pas 30 ans. Comparez ce gars-là avec les gens du Covid, y compris avec des gens qu'on a pu croiser qui se disent révolutionnaires. Ils sont excités sur le fait qu'il pourrait leur arriver, alors que c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur avant et maintenant. Vermorel, sachant qu'il allait lui arriver très probablement quelque chose de grave et probablement la mort, il y va parce qu'il en a le désir et le besoin pour se réaliser comme homme. Maintenant, même des gens qui se disent révolutionnaires sont d'abord et avant tout paniqués par le fait qu'on pourrait nous imposer quelque chose via l'OMS dans les mois qui vont venir prochainement. Au bout du bout, c'est la question que vous posiez tout à l'heure sur la dialectique du maître et de l'esclave. Hegel, il explique que l'esclave, c'est celui qui, dans le combat, baisse les armes pour ne pas mourir, justement. C'est l'anti-Vermorel. Pour ne pas mourir. Si on dit à tous ces gens... bon, l'OMS on arrête, les vaccins on arrête, etc. Mais vous restez bien sages. Tous se couchent pour ne pas mourir. Alors
Oui,
aujourd'hui, on est, alors juste pour terminer, aujourd'hui on n'est plus dans l'Antiquité, dans la plupart du temps, s'il n'y a pas un enjeu de mort. La plupart du temps, on se couche pour ne pas perdre sa vie telle qu'on l'a toujours menée. Le faux amour avec les personnes qui ont toujours été là, la captation affective, la peur de se retrouver seul, etc., etc. Du point de vue de l'émancipation telle qu'elle est posée par Hegel, je préfère ma réalisation que de conserver ma vie. Et plus largement, je préfère ma réalisation générique que de conserver ma vie telle qu'elle a toujours été. Sous-entendu, je désire perdre ma vie dans tous ces aspects tels qu'ils ont toujours été, parce que je veux absolument me réaliser. Et c'est ça le truc, c'est que quelqu'un comme Vermorel, comme c'est ce qu'il veut, eh bien, il a une trajectoire historique, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis les autres, et c'est en lien avec la schizophrénie mégapolitaine du capital, ils ont finalement une trajectoire hystérique. Hystérique, c'est-à-dire, dans 6 mois, on va nous imposer un truc. Et ça devient le truc le plus important de la Terre et de toute l'histoire. Mais ça n'a aucune importance. C'est un petit moment. L'enjeu central, c'est de s'émanciper d'abord et avant tout de ce moi, qui est l'expression de ce fétichisme qui me dévore. Pardon, Francis.
Non, mais alors justement, il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent que la schizophrénie mégapolitaine, c'est le degré ultime c'est l'étape supérieure, c'est le point où le séparé devient coupure. Tant que je n'étais pas dans la domination réelle supérieure, l'homme était séparé de l'homme. L'homme était étranger à l'homme. Il y avait une séparation. Mais cette séparation n'était pas coupure en ce sens qu'elle ne produisait pas l'oubli ontologique de l'être. À diverses reprises, on a repris cette formulation. Il y a deux types d'oubli. Il y a l'oubli mémoriel temporel et il y a l'oubli ontologique. Vous avez rendez-vous à la gare d'Austerlitz à 18h30 et vous oubliez ce rendez-vous. C'est un oubli mémoriel, c'est un oubli temporel. Vous avez oublié que vous aviez un rendez-vous, mais vous avez su que vous aviez un rendez-vous. On est aujourd'hui dans la schizophrénie mégapolitaine, dans l'oubli de l'être générique lui-même, puisqu'il y a oubli de l'obligation d'action révolutionnaire dans l'histoire. On a pu rencontrer des gens qui étaient excités par les marins de Kronstadt, par la commune de Paris, par la commune de Budapest, mais ils étaient excités 15 jours, 6 mois ou un an. Parce qu'ils sont dans l'oubli ontologique, ils sont dans la schizophrénie mégapolitaine qui fait que ils n'ont plus d'historicité. L'être humain est une historicité de désir, de volupté, de jouissance et donc de passion. Et ça nous oublie et ça nous oblige à poser la question de la passion. Cette formule que Marx n'a jamais cessé de répéter et de répéter. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un communiste? Qu'est-ce qu'un homme de radicalité? C'est un homme qui met en mouvement la passion de réalisation en tant que la passion est cette activité de puissance générique qui tend à se réaliser dans la pratique comme action aboutie. Vermorel a de la passion. Durruti a de la passion. Rosa Luxembourg a de la passion, Pierre Guillaume a de la passion. Et pendant toute l'histoire de l'humanité, dans le conflit aliénation-émancipation, il y a toujours eu un rapport qui faisait qu'il y avait des êtres de passion, qu'il y avait des êtres de petite passion, qu'il y avait des êtres de grande passion, mais qu'il y avait une surdétermination, parce que comme l'homme est un animal historique, il y avait des millions d'hommes qui avaient la passion. Et c'est parce qu'il y avait des millions d'hommes qui avaient la passion qu'on a couru aux barricades de 1871, de 1936, de 1956, et que contrairement aux clowns passifs d'aujourd'hui qui sont derrière le Hamas ou derrière Israël, derrière l'Ukraine ou derrière la Russie, ces gens-là avaient compris que c'était à bas la politique, à bas l'économie, à bas le salariat et à bas l'État. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous avons pu rencontrer des gens qui ont eu cette passion de la Commune de Paris ou de la Commune de Barcelone que pendant 8 jours, 6 mois ou un an? Et qu'à un moment donné, ben, ils ont trouvé plus adéquate avec eux-mêmes de rentrer dans l'inintentionnalité historique. Parce que quel est le contraire de l'intentionnalité historique? C'est l'inintentionnalité historique. Je suis un homme. Je me réalise par l'amour avec une femme. Je suis une femme. Je me réalise par l'amour avec un homme. Mais c'est quoi se réaliser par l'amour? C'est se réaliser dans un dialogue d'historicité où je fais péter les enclosures de la réification, de l'inculture, de la passivité. L'acte d'amour est un acte de transcendance radicale qui fait substance d'histoire. Et c'est ça aujourd'hui, c'est l'inversion dialectique. Je conjugue le verbe aimer, dans l'enclosure quotidianiste horizontale de la passivité chosiste généralisée et obligatoire. J'ai une vie d'abruti total servile, je me documente de temps en temps, et point final. C'est l'anti-Vermorel, c'est l'anti-Durruti. C'est l'anti-Malatesta, parce que je suis au bout de la domination réelle totale de la réification accomplie. Et c'est là où je dois revenir à la composition organique. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus, sur le voyage au bout de la fin du capital. C'est que la composition organique n'est pas une composition organique technicienne ou manufacturière. Bien évidemment, dans le rapport de la composition organique de C sur V, j'ai toute l'histoire technologique de la plus-value relative qui s'empare de la plus-value absolue et qui va jusqu'à la phagocytose. J'ai toute l'histoire de la domination du travail mort sur le travail vivant, mais j'ai la domination de Thanatos sur Eros. Pourquoi on est entouré de cadavres? Pourquoi il n'y a pas de passion? Pourquoi les gens marchent à quatre pattes? Parce que je suis au terme de l'expression supérieure de la composition organique. Le rapport de domination de l'usine globale sur l'homme a atteint son point ultime. L'idole échangiste de tous les thanatismes a pris le pouvoir total. Qu'est-ce qu'une solitude? C'est Thanatos. Qu'est-ce qu'un couple? C'est Thanatos. Faire des enfants, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit, dans une intentionnalité historique qui ouvre la porte de l'histoire. Mais dans le rapport de la composition organique de la schizophrénie mégapolitaine du capital, si je bois du vin une fois toutes les 3 semaines, si je mange plus de viande, si je pense à mon petit pavillon, à mes investissements, si je pense à la piscine du premier, au judo du deuxième, aux vacances de tout le monde au mois d'août, et puis peut-être aux vacances d'hiver de février, que je suis totalement enfermé dans ce rétrécissement. Je ne peux pas avoir d'intentionnalité historique. Et qu'est-ce que j'ai si je n'ai pas d'intentionnalité historique? Je suis une épave excrémentielle de la merde du capital, de la domination réelle. L'idole échange a pris le pouvoir total sur la vie. Donc, j'en reviens à Empédocle. J'en reviens à Héraclite, j'en reviens à la conscience du désir dans la phénoménologie de l'esprit, j'en reviens à la conscience érotique de l'être générique dans les manuscrits de 44. Qu'est-ce qu'un homme? C'est la conscience historique d'Eros dans la volupté, dans la fertilité et dans la création. Et aujourd'hui, Thanatos est partout, il n'y a donc plus d'intentionnalité historique. Je suis dans la dictature échangiste du solipsisme totalitaire. Le solipsisme totalitaire. Alors, je change de sexe, je m'enferme dans un truc qui n'a plus aucun contact avec l'histoire. D'ailleurs, il n'y a plus d'histoire. Et c'est ce que Marx a très très bien compris dans l'introduction de 1857. Le logos grec a fait naître le Iliade de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire dans le village oriental. Il y a une récitation chronologique des histoires despotiques du pouvoir nécessaire. Il n'y a pas d'histoire chez les musulmans, il n'y a pas d'histoire chez les juifs, il n'y a pas d'histoire chez les shintoïstes, il n'y a pas d'histoire chez les bouddhistes. L'historicité comme mouvement dialectique d'intentionnalité qui renverse et qui fait de l'homme le sujet actif de son histoire, parce que l'homme, par le logos, peut transformer le donné initial jusqu'à dire j'abolis la politique. J'abolis l'économie, j'abolis la récitation, je mets en perspective la révolution contre l'argent et contre l'État, c'est le logos, c'est l'intentionnalité historique. C'est l'Iliade et c'est l'Odyssée. Rappelez-vous toujours l'introduction de 1857. Nous sommes des Grecs. Et c'est parce que nous sommes des Grecs dans le logos subversif de la radicalité que nous aboutissons au manifeste communiste et donc à Vermorel. Qu'est-ce qui fait que Vermorel est Vermorel et que parmi les gens que nous rencontrons des Vermorels de 5 minutes, qui s'excitent, qui s'excitent, qui s'excitent, puis qui retombent, tel un petit étron malheureux sur le bord du trottoir. Mais c'est la schizophrénie mégapolitaine du capital. L'homme n'est plus un homme. Qu'est-ce qu'un homme? C'est une historicité de volupté, de conscience et de transformation qui abolit le donné initial. Qu'est-ce que la schizophrénie mégapolitaine de l'usine globale? C'est le moment où toute intentionnalité qui viserait à la négation du donné initial a disparu, puisque je suis obligé d'entrer dans la réitération sans fin de l'échangisme universel de la crise terminale. Donc, faut bien comprendre le problème de la composition organique du capital. La composition organique du capital, quand on dit c'est C sur V, c'est pas simplement une machinerie qui pèse sur une autre machinerie et qui dégage des contradictions. C'est un rapport de domination, c'est le rapport du fétichisme de la vie Et l'usine globale, dès lors qu'elle est l'usine totale, pèse dans la totalité des compartiments de la vie. La sexualité misérable du temps contemporain, c'est l'usine globale. C'est la composition organique. C'est Eros sur Thanatos. Et c'est donc au bout de la réalité de la domination du travail mort sur le travail vivant, le renversement, c'est Thanatos qui domine Eros. Et l'idole échange est partout. Qu'est-ce qu'un homme qui rencontre un homme? C'est une économie narcissique de l'échange. Qu'est-ce qu'un homme qui rencontre une femme? C'est une économie narcissique de l'échange. Et si la relation se met en mouvement dans le rapport spectacliste de la valeur d'échange, c'est une économie de reproduction de l'angoisse qui se soigne, qui veut tenter de s'échapper d'elle-même, mais surtout sans intentionnalité révolutionnaire de transformation sociale. Donc, quand on dit la passivité chosiste généralisée et obligatoire, c'est tout le problème de la conscience vraie et de la conscience fausse. Il y a un passage décisif que j'ai souvent cité, c'est la lettre à Mering de Engels, du 14 juillet, je crois, 1873. Il y a tout un débat entre Engels et Mering sur l'idéologie, sur l'aliénation et sur la passivité. Et Engels, qui reprend tout le travail du groupe Marx-Engels, lui dit, la conscience fausse, c'est un processus qui est accompli consciemment. Il est accompli consciemment parce que c'est bien la conscience qui fait travail de production de la conscience, mais avec une conscience falsifiée. Avec une conscience falsifiée. Et comme on positionne le problème de domination formelle, domination réelle, la conscience falsifiée, elle a bougé. Quand Engels écrit à Mering, on est en 1873. On est aujourd'hui en 2024. La conscience falsifiée s'est réalisée, s'est déployée, elle s'est dialectisée en tant que force productive, elle a conquis l'intégralité de l'espace-temps, et aujourd'hui, c'est plus simplement une conscience falsifiée, c'est la conscience totalement falsifiée de la totalité de toutes les perceptions qu'a produit l'usine totale. Donc si nous, aujourd'hui, on est capable de produire cette analyse de la schizophrénie mégapolitaine qui explique toute cette passivité généralisée, toute cette déchetterie généralisée de l'aliénation universelle, c'est parce que on reprend la filiation méthodologique, on comprend le travail de prévision. Quand Marx et Engels ont positionné à travers les Grundrisse, le Capital et le fameux sixième chapitre, nous mettons en perspective ce qu'Aristote appelait l'entéléchie, la compréhension que quand je dialectise le formel, si je le dialectise correctement, je dialectise sa réalisation. Le formel, qui n'est que formel, va se réaliser. Et il va se réaliser comme réalité. Mais il va se formaliser comme réalité en voie de réalisation totale. Le concept de totalité comme concept de vérité. La réalisation totale de la conscience falsifiée dont parle Engels à Mering, c'est aujourd'hui. Et c'est toute la production du gauchisme de la marchandise qui s'est positionnée à la suite des événements de 68. C'est-à-dire que le gauchisme de la marchandise est la théorisation avant-garde du laboratoire de la marchandise dans la dislocation de l'histoire qui suit mai 68. La dislocation de l'histoire qui suit mai 68 doit disloquer le prolétariat et elle doit disloquer l'histoire. C'est le prolétariat qui fait l'histoire de l'émancipation et c'est l'histoire qui fait le prolétariat qui abolit l'histoire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire parce qu'il n'y a plus de compréhension révolutionnaire du prolétariat. Et il n'y a plus de compréhension révolutionnaire du prolétariat parce qu'il n'y a plus de compréhension révolutionnaire de ce qu'est effectivement l'histoire. Et je rappelle ma jeunesse quand j'étais effectivement dans des groupes ouvriers à Nard, même si on en parlait mal, nous ne parlions que de l'abolition du salariat. Notre trajectoire, c'était l'abolition du salariat. Quand aujourd'hui vous allez voir les feuilles libertaires du capitalisme libertaire, il n'y en a pas une qui parle de l'abolition du salariat, puisqu'il n'y a plus d'histoire. puisqu'il n'y a plus d'intensité et d'intentionnalité historique. Donc les feuilles libertaires sont exactement comme les feuilles du MEDEF. Elles parlent des réfugiés, du LGBTisme, du réchauffisme. Il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire. L'histoire a été oubliée, puisqu'on est dans l'oubli générique de l'intentionnalité historique. On est au degré ultime de la réification, et le degré ultime de la réification qui fait la schizophrénie mégapolitaine abolit tout ce que l'on sait depuis Aristote et les présocratiques. Qu'est-ce qu'un homme? C'est un sujet politique qui va pouvoir devenir un sujet anti-politique. Aujourd'hui, c'est le sujet consommatoire du vide solipsiste dans l'économie échangiste du narcissisme totalitaire qui, dans sa solitude inerte ou dans son couple mortifère, est condamné à reproduire sans fin les enclosures de la capitalisation interminable.
Vous avez parlé de l'idole argent et en domination formelle, les marchands ou les commerçants, il y avait une grande méfiance les concernant parce que même si on comprenait pas ce qu'il y avait derrière, intuitivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Dire quelqu'un qui va être dans le commerce, dans une situation sociale avancée dans ce domaine-là, c'est plutôt quelque chose de valorisant. Et pour revenir sur l'idole échange, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont écœuré par ce que représente la politique et donc il serait censé passer à lever un voile à un niveau supérieur, mais quand ils font ça, ils restent toujours dans l'indistinction parce que justement quand on parle de totalité, de séparation et de coupure, le point d'appui sur lequel les gens vont s'appuyer le plus solide, ça va plus être le pouvoir du bulletin parce que de plus en plus on commence à saisir ce que ça vaut, mais les gens vont quand même penser que le pouvoir absolu, c'est quand même le pouvoir d'achat. C'est-à-dire comme si et on nous a fait le coup dernièrement avec enfin, entre autres avec les agriculteurs en disant que ben, il faudrait quand même que les consommateurs, pour aider les agriculteurs, répartissent différemment leur achat. Et dans la domination réelle supérieure, dans l'usine globale, ben on est séparés, mais on sépare des choses qui en réalité sont une unité. Et Marx nous explique bien que il n'y a pas l'achat d'un côté et la vente. Les gens qui pensent que on pourrait boycotter les produits pour faire tomber certains types de ventes et favoriser d'autres pensent qu'ils ont le pouvoir de choisir leur achat. Mais le fait, et on revient à l'histoire, le fait de ne pas comprendre que son pouvoir d'achat, c'est pas un pouvoir d'achat, c'est qu'avant ce pouvoir d'achat, il a fallu se vendre sur il a fallu que l'on vende notre force de travail. Donc après, il y a plein de sphères pour entrer plus en profondeur entre le travail productif, travail improductif, mais au point de départ, il y a ça, il y a cette extorsion de plus-value. Et cette extorsion de plus-value, mais c'est pas une plus-value, je le redis, un chiffre, c'est une force humaine que l'on donne, dont on se sépare, et c'est ce qui va constituer cette puissance étrangère, cette puissance aliénatoire, qui fait que là où on croit avoir le choix, on ne fait que valoriser ce qui nous domine. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas d'un côté l'achat et de l'autre la vente. Il y a l'unité achat-vente. C'est comme il y a une unité exploiteur-exploité. C'est pas le méchant exploiteur, le gentil exploité. Tout ça, avant ça, il y a une unité. C'est le rapport social d'exploitation. Et que tant qu'on ne va pas sur ça, on va se perdre dans des illusions de sortie de crise. Et la sortie de crise, c'est l'intensification de la crise actuelle. Et nous sommes dans la schizophrénie mégalopolitaine du capital. Et il va y avoir des débouchés, des débouchés, des avancées dans cette crise. Et Et on parle d'inculture, de tout ce dont on peut parler, de séparation et de côté négatif, mais connaître la naissance, le déploiement, la nécrologie, ce n'est pas faire que ce qu'on pourrait, si on s'arrêtait là, dire ce soir. C'est il y a une question d'amour, et il y a, quand on parle d'être générique, tout ça, c'est à venir. En fait, on est très optimiste sur le temps long, malgré tout ce qu'on est en train de définir. Là, maintenant, c'est que tout ça, il y a une issue très positive, et ça peut surprendre les gens que, ah bon, mais vous avez parlé, c'était dur ce que vous disiez. Ben, on décrit une réalité en sachant que quelque chose de puissant et de vrai sera derrière, mais qui correspond au mouvement de s'essurver, comme on l'a dit, et à notre intentionnalité en implication réciproque avec ce mouvement d'histoire.
Vous voulez ce qui est. Allez-y, Michel.
Allez, c'est pas grave.
Il y a une opposition radicale entre la qualité et la quantité. Elle est posée par les présocratiques. Elle est posée par. Alors, que les gens qui nous écoutent aillent lire les citations que l'on met sur le site. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement une critique de la passivité chosiste généralisée et obligatoire qui veut réduire l'humanité à l'état de crétinerie universelle. On essaye de donner aux gens des jalons de conscience, des poteaux indicateurs de subversion. C'est bien de nous écouter en vidéo, mais il faut que vous lisiez, il faut que vous réfléchissiez, il faut vous confronter à tout ce qui vous traverse. Donc on met régulièrement des textes sur le site de Guerre de Classe, et en particulier des textes qui renvoient à des grands moments de l'histoire de la réflexion. Il y a des textes de Hegel, il y a des textes d'Aristote, il y a des textes des présocratiques. C'est-à-dire que nous n'avons prétention à rien apporter de nouveau. Nous sommes simplement la synthèse ultime de la critique communiste contre la politique et contre l'économie. Mais tout a été positionné dans la longue histoire, et les gens qui nous écoutent doivent lire. Il suffit pas simplement d'écouter nos vidéos. Faut que les gens s'arment. Il faut que les gens s'équipent. On n'est pas dans une intentionnalité simplement parce qu'on bouffe de l'image. On est dans l'intentionnalité parce qu'on devient le principe actif de son automouvement. On devient le principe actif d'un surgissement de qualité. Et la qualité, c'est quelque chose de décisif qui a été positionné par les présocratiques et ensuite repositionné par Hegel, repositionné par le groupe Marx Engels. Faut comprendre la logique historique des auto-présuppositions. L'auto-présupposition révolutionnaire de la qualité ne peut surgir que quand l'auto-présupposition de la quantité à réaliser l'intégralité de ces contradictions, de ces déploiements, de ces figurations et de ces configurations. C'est au bout de l'écroulement du règne despotique de la quantité marchande que peut rejaillir la qualité humaine. Donc, je redis, on est extrêmement sévère pour la formation sociale de la mégapole cybernétique qui a fait de l'espèce humaine une espèce totalement abrutie, c'est-à-dire un déchet universel de la merde du capital, mais c'est une configuration qui n'est pas due au hasard. C'est la configuration des déterminations obligatoires, des lois de nécessité, de la dialectique des forces productives. Donc c'est précisément parce qu'on est au bout du moment où va enfin jaillir la crise ultime du capital, qu'on est dans cette composition organique. Mais il faut que les gens comprennent que c'est parce que cette composition organique est terrible et qu'elle les a réduits à rien, c'est-à-dire à des êtres sans passion, sans envie, sans désir, sans puissance, que le renversement est en train d'arriver, parce que c'est précisément au moment où les êtres n'ont plus aucune puissance que le capital a donné toute sa puissance à l'absorption de leur puissance. Et là, il y a une autonégation dialectique qu'il faut comprendre. On est en train d'arriver au moment où le réveil de la passion va devenir possible. Et le réveil de la passion, on n'est pas des volontaristes libertaires. Il n'y a pas la révolution un jour parce que les gens veulent. Il y a la révolution un jour parce que les formations sociales qui empêchaient le vouloir se sont elles-mêmes invalidées. C'est ça la crise finale. La crise finale de l'impérialisme totalitaire de la marchandise qui a tout absorbé cesse de pouvoir absorber davantage parce qu'il a tout absorbé. Et c'est précisément parce qu'il a tout absorbé que ne pouvant plus rien absorber de plus, il perd l'équilibre de sa nécessité de reproduction élargie. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, la passion humaine peut rejaillir. La passion humaine ne va pas rejaillir parce que des milliards d'abrutis incultes et passifs vont dire: Ah bah tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien jaillir. Donc je vais reconquérir ma passion. Je vais avoir du désir là où je n'en avais pas. Ça n'existe pas, ça c'est un conte pour enfants. Le désir, la passion, l'historicité vont renaître parce que le développement du capital va produire le plus grand acte historique, c'est celui de son effondrement. L'acte historique le plus gigantesque de l'histoire de l'humanité va survenir parce que cette fameuse composition organique du travail mort sur le travail vivant et de Thanatos sur Eros va s'invalider. Et c'est précisément parce que cette gigantesque explosion sociale à l'échelle de l'univers va produire le surgissement du prolétariat s'abolissant, en abolissant la politique et en abolissant l'économie, que la passion va surgir. La passion n'est pas quelque chose qui va surgir comme ça dans le hors-sol. La passion va être le sol vivant de la vie qui renaît, parce que la composition organique des contradictions dialectiques entre Eros et Thanatos ne va pas reproduire la possibilité de sa possibilité et reproduire le mouvement du mouvement de sa reproduction possible. Et tout ça est dialectique, tout ça est déterministe. Et lisez, lisez. La preuve que le capital vous a mangé, c'est que vous ne lisez quasiment rien, c'est que vous n'essayez pas de comprendre et que vous êtes au cul de la politique et de l'économie. Vous êtes les larbins de l'État et du gouvernementaliste. Vous êtes du gouvernementalisme. Vous êtes toujours au cul d'une clique ou d'une mafia politique. Abat tous les États. Vive la solution à zéro État partout. Abat tous les gouvernements. Vive la révolution sociale. L'intentionnalité. Vermorel, Durruty, Mounis, Pierre Guillaume, Malatesta, Rosa Luxembourg. C'est ça qui va revenir et qui va revenir encore plus fort dans le jaillissement de l'incarnation, dans le jaillissement de la conscience, parce que on est au bout du processus par lequel la mégapole, qui s'est faite usine globale et usine totale de tous les êtres réifiés, n'a plus la capacité à brève échéance de reproduire le pouvoir de la réification. Alors, c'est compliqué, mais c'est sublime. Faut bosser, faut bosser, faut lire, faut creuser. Et c'est parce qu'on lit, qu'on creuse, que l'intentionnalité devient connaissance, qu'elle devient savoir, qu'elle devient fertilisation. Et c'est à partir de là que la passion, l'amour, la volupté devient humaine, en capacité de transformation, en capacité d'abolition du donné initial aliénatoire. Nous sommes humains parce que nous avons la capacité d'abolir l'esclavage. Nous sommes humains parce que nous avons la possibilité et la richesse de compréhension qui conduit à la commune universelle sans argent et sans État. C'est tout ça qui est en travail. Donc, on fait un travail d'explication pour aider les gens à comprendre ce qu'est cette schizophrénie mégapolitaine qui fait qu'ils sont complètement désarticulés. Quand ils rentrent le soir chez eux, dans leur solitude ou dans leur vie de couple, ils sont désarticulés, ils sont démembrés, ils sont dépassionnés, ils sont dévitalisés. Ils n'ont aucune capacité, aucune jouissance et aucune activité possible de transformation sociale. Le capital les a annihilés parce qu'on est au bout de la longue histoire de la valeur d'échange. Ils ne sont plus eux-mêmes que la valeur d'échange narcissique du propre mensonge spectaculaire de leur représentation. C'est tout ça qui doit être aboli et ça ne peut être aboli que si on comprend toute la richesse méthodologique du groupe Marx Engels, qui, de l'idéologie allemande à la critique du programme de Gotha, en passant par les Grundrisse et le Capital, a tout positionné de manière méticuleuse. Et à partir de cette compréhension méticuleuse, minutieuse et radicale, nous savons que le capital est mortel, nous savons que la nécrologie a commencé, et nous savons que cette nécrologie aura son terme quand l'intégralité des présuppositions de la biologie auront été invalidées.
Et le temple de la marchandise va s'effondrer, ce que vous avez dit, et c'est là qu'il faut se souvenir du Christ. Détruisez ce temple de la marchandise, je le relèverai en 3 jours. Et il précise après, devant l'incompréhension des pharisiens, il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. C'est
Incarnation.
l'incarnation, l'unité, l'antiséparation, l'antischizoïdie, le divin est dedans, et il est revenu le dire après que l'histoire l'ait fait oublier aux hommes pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et tous ceux qui en parlent encore du Christ aujourd'hui en parlent comme quelqu'un déifié extérieurement à eux. C'est toujours pareil, déifié extérieurement à eux. L'enjeu, c'est l'incarnation du désir humain, de l'agir humain pour le juif humain. Et tous ceux qui en parlent, et c'est le problème, alors c'est la difficulté de l'époque, parce que l'avantage de Vermorel par rapport à nous, c'est précisément que il n'était pas dans la schizophrénie mégapolitaine du capital. Pour nous, abolir, c'est abolir la totalité de ce qu'on a été jusqu'à présent. Et le plus difficile, même ce qui nous a paru dans toute cette merde, beau. Donc c'est un effort d'arrachement autrement plus important. Au sens de plus difficile que celui de Vermorel. Mais en même temps, c'est une chance parce que nous, contrairement à eux, eux, ils l'ont fait alors que ça n'allait pas s'effondrer et ils le savaient. Contrairement à eux, nous, ça va s'effondrer et on n'a absolument plus rien à perdre. Plus rien à perdre. Alors vous le disiez, ce n'est pas un appel volontariste, c'est un appel à l'éveil conscient, à ceux qui ne sont pas encore morts.
Non, mais si vous voulez, la schizophrénie mégapolitaine, c'est des millions d'hommes ou de femmes qui rentrent tout seuls chez eux le soir, qui se posent sans désir, sans incarnation et sans infini. Parce que le Christ radical, le manifeste communiste, c'est le refus d'autre chose que ce que produit l'automouvement. L'infini est dans le fini. Le mec qui rentre tout seul le soir, qu'est-ce qu'il fait de son corps, de son incarnation et de l'infini? Et le mec qui rentre en couple, le couple, les mômes, la quotidiennité, qu'est-ce qu'il fait de son infini? Qu'est-ce qu'il fait de son corps? Il peut pas y avoir d'intentionnalité historique si je ne fais pas bouger mon corps dans l'infini, dans une volupté, dans une rencontre. La rencontre de volupté avec l'histoire dans l'infini me fait abolir ma solitude. Et elle me fait abolir la névrose d'enclosure de mon couple mort. Et je transcende le couple, et je transcende la vie. Et je deviens le fini qui rencontre l'infini, et l'infini qui rencontre le fini. Et c'est cette incarnation radicale qui fait que je suis un homme qui se tient debout, parce que un homme qui se tient debout travaille à chaque seconde à abolir le nonet initial et à transformer le vécu. Les tests sur Feuerbach, c'est tous les jours, chaque seconde. Ce merveilleux mouvement par lequel je m'émerveille de la vie et par lequel je transforme le donné de l'existence. La vie, c'est pas une valise que je porte. La vie, c'est l'émerveillement des sens qui transforme toutes les destinations, toutes les sensualités dans un objectif qui s'appelle la jouissance, l'émancipation et la beauté.
Thank you.